Tac, ça enregistre. Ça enregistre. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Intérieur Nuit. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu spécial parce que j'ai du mal à parler comme d'habitude, mais surtout, ça fait un an qu'on a repris Intérieur Nuit avec le Crible et ça se fête. Et pour fêter ça, je me barre. Allez, ciao.
Ouais,
ouais, trop bien. C'est le dernier épisode que je vais présenter, voilà, je l'avais déjà dit. Mais je vais pas vous laisser entre de mauvaises mains. Parce que déjà, je vais vous présenter toutes les personnes qui sont autour de la table. Puis après, l'une d'entre elles, qui va être définie au hasard, pas du tout, ça a été défini à l'avance, va prendre le lead et voilà, il va présenter ce que c'est Intérieur Nuit de ça. Mais avant toute chose, mon premier invité, c'est un peu cette pizza froide le lendemain d'une soirée, cette présence réconfortante, ce grand classique indémodable et surtout cet aspect fromager. C'est Simon.
Merci, merci beaucoup.
Ça va ? Oui, alors, j'ai eu 6 minutes chrono pour écrire.
Je suis une pizza froide, mais j'aime bien.
Tu as un aspect fromager.
J'ai un aspect fromager. Beaucoup de bouffe. Je dois être appétissant.
Ouais. Alors, mon second invité, c'est simple, c'est l'initiateur de débat par excellence, parce qu'on n'est jamais d'accord. S'il dit oui, je dirais non. S'il dit bleu, je dirais rouge. Et s'il dit bon, je lui dirais de répéter, parce que j'ai pas bien compris ce qu'il a dit. C'est Nico.
Bravo. C'est cela, oui.
Qui a décidé de parler que en citation de comédie française, visiblement. Alors, il est complètement pété. Non, mais il est 14h25 à l'heure où on enregistre. Il est pété. Alors, ma troisième invitée, c'est la doyenne de l'émission, la vétéran, la vieille en somme.
C'est un roast.
Elle est venue dans cette émission plus de fois que je ne fais de jeu de mots bateau, c'est-à-dire plus de 1000. C'est Lise.
Merci.
Bravo.
Enfin, je crois.
Ouais,
l'ancienneté.
J'ajouterai des applaudissements parce qu'on a tous une main sur le micro, donc on ne peut pas applaudir. Et mon dernier invité, bah, je ne le connais pas, je l'ai rencontré pour la première fois il y a 20 minutes, mais il m'a l'air sympatoche, ma foi, c'est Hector.
Salut.
Et moi, c'est Antonin. Mais aujourd'hui, vous allez pas m'entendre, je pense. Je serai peut-être dans le fond et je ferai des blagues, ou alors je remplacerai Nico s'il est trop pété. Mais voilà, j'introduis juste le sujet. On va parler des comédies françaises, comme il y a un an tout pile, si vous avez écouté les deux épisodes le jour de leur sortie. C'était avec Angie, Arthur, Feu Arthur et Philippe. Et ça, c'était très drôle. Et là, on va essayer de, non pas de faire une suite, mais d'en parler avec d'autres personnes de manière différente. J'espère que ça va vous plaire. Et je vous laisse avec roulement de tambour hein, que j'aurais rajouté au montage. Non, c'est pas vrai, c'est du montage, je vais pas le faire. C'est Lise qui va présenter. Je te laisse.
Salut.
Et je laisse 3 secondes de blanc pour donner mon micro et mon casque à Nico. Allez, bon épisode.
Bonjour à tous, nous sommes dans Intérieur Nuit ou Intérieur Jour, vu qu'on tourne à 14h40, non mais pas 14h25. Je laisse, vu que je suis en stress total de diriger cet épisode, je vais laisser à mes compères la joie de raconter, d'expliquer ce qu'est Intérieur Nuit. Vous bousculez pas dans le micro, allez-y.
Oh bah attends, je me bouscule.
Ah merci Simon.
Non, bah écoutez, Intérieur Nuit par le Crible, qu'est-ce que c'est ? Bah c'est en fait tout simplement le fait de prendre un thème du cinéma. Donc aujourd'hui, ça va être les comédies françaises. D'en décrypter un peu le genre et de sortir des tropes, c'est-à-dire des éléments récurrents des comédies, en l'occurrence. Et bah on a pour faire ça, on a une première partie où justement on tire un peu les tropes et on parle du genre en lui-même. Et de notre rapport à ce genre, voilà tout ça. Et une deuxième partie où on écrit un scénario original, ou pas.
Bourré de clichés,
bourré de
souvent.
Bourré de clichés, souvent, nanardesque au possible, ou un petit peu sérieux.
Ça dépend des thèmes, finalement.
Ça dépend. Bah, là, aujourd'hui, ce sera peut-être un peu nanardesque.
Ouais, vu la comédie française, quel le thème ?
Et du coup, voilà, cette émission se fait en deux parties. Et voilà, j'espère avoir bien expliqué.
J'ai parfaitement expliqué, mais c'était trop court. Du coup, je suis toujours en stress pour pouvoir diriger cet épisode. est-ce que l'un de vous aimerait commencer pour parler d'un de ses films préférés ou pas, de la comédie française qu'est le thème ?
Hector, t'es nouveau dans Intérieur Nuit, non ?
C'est
pas la tradition, aujourd'hui, toujours.
Non, ça s'appelle du bisoutage, Nicolas, mais vas-y.
Bah, oui. Genre, comme ça, j'ai le temps de réfléchir toujours au film auquel je vais parler.
C'est vrai que tu n'as toujours pas fait tes devoirs, toi.
Toujours pas, non, vraiment.
Donc je commence, quoi. Moi, on m'avait dit tu passeras en dernier, il n'y a pas de souci. Je vois que la présentatrice...
Comme tu vois, je ne contrôle rien du tout.
Si vous voulez, je peux commencer. Ça ne me dérange pas du tout.
Ah, mais...
S'il y a besoin...
Fais, Simon, fais.
Allez, on reprend le contrôle. Alors, bon, les comédies françaises, c'est un truc que je pense qu'on est un peu nés avec, en tant que bon franchouillard. On a forcément vu, les bronzés font du ski, tu vois. Enfin, c'est vraiment un truc un peu dans notre
ADN. C'est ça, ta comédie française par excellence, les bronzés.
Bah, non, c'est les bronzés 3, c'est les
bronzés 3. En fait, il y a eu beaucoup de collectifs d'humoristes qui ont fait des films, et ça a mené à la Cité de la Peur, ça a mené aux bronzés font du ski. Il y a de très, très, très grandes masterclass. Donc je pense que c'est un truc vraiment ultra connu et qui fait aussi énormément d'entrées en France. CF, Bienvenue chez les Ch'tis. N'est pas, je trouve, un si bon film que ça, mais c'est marrant quand même.
En fait, là, ça va, je suis plus stressé. Tout va bien.
Quand t'as vu le niveau des films duquel on parle,
on parle de Bienvenue chez les Ch'tis. Moi, je vais plutôt parler d'Intouchables, qui est, je trouve, une version upgradée de Bienvenue chez les Ch'tis, sortie 2 ans après, je crois. Et tout simplement, je trouve que on n'a jamais vraiment fait mieux en termes de comédie française. Parce que déjà c'est bon en termes de chiffres c'est du n'importe quoi hein. On est sur je sais plus combien de millions d'entrées
15 je crois
on est sur dans le monde on est à 52 millions d'entrées donc
Je crois que c'est un des premiers films au box office français non
non le premier c'est Mission Cléopâtre avec 15 millions
ah d'accord ça
non tout ça l'a pas dépassé okay. Ou alors il y a genre vraiment très 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 peu de milliers quoi mais il est quand même Mission Cléopâtre est quand même très loin.
Intouchable, c'est moins familial que Mission Cléopâtre, donc ça joue beaucoup.
En tout cas, c'est vraiment un film qui a fait énormément d'entrées. Et je trouve que c'est un film très efficace, puisque pour ceux qui ne connaissent pas Intouchable, c'est un film qui dépeint la vie d'un aristo.
En fait, non, j'en ai vraiment de la merde. Vraiment de la merde. Ça a été vraiment dépassé.
Je me disais
ouais,
aussi.
Ça m'étonne pas.
Et en fait, il est vraiment très loin, Mission Cléopâtre. Enfin, non, mais il est genre 4e, devant genre La Grande Vadrouille, Intouchable et Bienvenue chez les Ch'tis. Qui a fait 20 millions chez les Ch'tis, et Intouchable est à 19 millions.
Non, mais
Il est vraiment pas très loin.
Intouchable, on a tendance un peu à le zapper, mais en fait, mondialement, c'est vraiment un succès, mais mondialement reconnu. Quoi. Vraiment, c'est un film qui s'est extrêmement bien déporté, un peu à l'image de Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain.
Il y a pas eu un remake,
ouais.
Américain avec Bryan Cranston, je crois.
Ouais, et Nicole Kidman. Quoi.
Franchement, on va pas en parler, je
qui
pense.
Qui joue au Marcy.
Non, qui joue la femme.
C'est vraiment dommage.
Je crois que c'est. Je sais plus.
Non, mais je pense qu'on va pas en parler de ça.
On va pas en parler parce que c'est vraiment une daube.
C'est pas français.
J'ai pas envie d'en parler.
Donc
voilà. Voilà. Ça m'énerve les remakes américains.
Mais est-ce qu'il faut dire que Intouchable est un film tiré d'une histoire vraie ?
Oui, c'est ça en fait. C'est même un livre en fait. Du coup, c'est un aristocrate corse. Alors, je sais plus comment il s'appelle malheureusement.
Toujours les Corses.
Voilà.
Napoléon.
et du coup, en fait, il a raconté son accident, le fait qu'il a perdu sa femme et tout. Et le fait qu'il a réussi un peu à se relever grâce à son auxiliaire de vie qui s'appelle Yacine quelque chose. Encore une fois, désolé, j'ai pas le nom. Mais du coup, en fait, c'est un film extrêmement humain, puisque déjà, c'est un film d'une histoire vraie, mais qui en plus n'est pas dérangeant dans sa manière de raconter la chose. C'est très délicat. C'est vraiment un film qui d'un côté, fonce et ose tout, mais jamais sans être outrancier ou déranger qui que ce soit. Et du coup, c'est un film très universel parce que ça touche au sujet du handicap, qui est un sujet quand même assez sérieux, qui peut toucher les vies de tout le monde à travers le monde.
Et des classes sociales aussi, vu que c'est quelqu'un d'handicapé, mais qui a un patrimoine très conséquent.
Ouais.
Et son auxiliaire de vie, c'est quelqu'un qui vient de la cité.
Ouais,
qui
veut toucher les ascétiques.
Hein. Exactement.
On est sur vraiment...
Mais elle est où la comédie dans ce film, du coup ?
La comédie, elle est cette rencontre des deux mondes, finalement. On a un gars qui est du coup complètement déprimé, qui a rien dans sa vie, et quand il cherche un nouvel auxiliaire de vie, c'est que des mecs qui le prennent en pitié et tout. Alors que le mec qui veut toucher les ascédiques, il veut toucher les ascédiques, mais il est super marrant. Il est super.
C'est Omar Sy en même temps.
Il est bien plus humain, et oui, ouais, Omar Sy magnifie beaucoup le rôle. Et du coup, ce film, je me suis dit que c'était un film qui touchait beaucoup de gens à travers le monde et qui avait fait un très très grand succès. Et en termes d'humour, on a rarement fait mieux. Peut-être parce que les comédies françaises, depuis un peu ce film, ont eu du mal à se renouveler. Je pense aussi à des comédies qui marchent un peu qu'en France, donc toutes les comédies style Christian Clavier qui marchent qu'avec les clichés qu'on a en France.
Je me demande encore comment ça se fait que ça marche ce truc. Mais
tu prends une nationalité, tu mets Christian Clavier.
Bah enfin, voilà, mais c'est.
Oui, mais au bout d'un moment, faut.
C'est vrai que ouais, ça marche, mais enfin.
Pourcentage de Le Pen, tu comprends tout de suite le box-office de Christian Clavier.
Bah c'est ce qui magnifie la France. Non, c'est ce qui fait la France.
C'est français.
C'est ce qui fait la France.
Ah ouais, ça marche.
C'est ce qui fait la France. Même si je trouve qu'en
3.
Il y en a 3.
En termes d'humour et.
10 millions, je sais pas, mais enfin.
Déjà l'opération Portugal, évidemment, qu'on n'oublie pas.
Au secours. Je vois de quel film tu parles. Je regrette de voir quel film tu parles.
Je connais que l'affiche et j'ai déjà vu tout le film.
Au secours. Et voilà, et en fait, ouais, juste, bah moi, il y a, à mon sens, il y a Le Sens de la Fête qui est un excellent film.
Il est génial, ce film.
Excellent, et qui, bah, avec à peu près, en termes d'humour,
avec Bakri en rôle principal, il est incroyable.
Voilà. Mais peut-être qu'il est peut-être un peu moins familial et peut-être un peu plus.
Il est moins familial parce que le thème parle à tout le monde, mais la manière dont on est du point de vue de Bakri, qui est juste le grognon par excellence, en fait, le ronchon de service.
Et du coup, qu'il a avec Agnès Jaoui, genre, tout début,
incroyable. Dans les années 2000, c'était incroyable. Du coup, ouais, La Sœur de la Fête peut pas. Les enfants, ils vont s'ennuyer, quoi. Alors que Intouchable, les enfants. Adolescents trouveront plus leur compte dans ce parce qu'ils s'y retrouveront dans les personnages notamment.
Ouais. Puis Intouchable, c'est beaucoup aussi notre génération. Enfin, on est tous dedans autour des années 2000, donc on était vraiment gosses quand Intouchable est sorti. On avait genre 11, 12, 13 ans.
Mais regardez Le Sens de la Fête, c'est une.
Mais enfin, ouais,
et Benjamin Laverne.
Exactement, ouais.
Super. Gros connard. Là.
C'est
incroyable. Le rôle de Benjamin Laverne dedans, un enfoiré de première.
C'est un enfoiré, mais qu'est-ce qu'il le joue bien.
Franchement.
Enfin voilà, du coup, je me pose un petit peu cette question.
Mais après, t'as quand même oublié, on parle quand même de Tulina Donakash, t'as quand même oublié genre leur comédie, savoir pour moi ce qui est genre le truc le plus drôle.
Nos Jours Heureux.
Nos Jours Heureux,
incroyable.
Qui est un banger de comédie française. C'est voilà, mais juste parce qu'ils sont quand même très très doués ces connards.
Mais c'est un banger et j'aime beaucoup ce duo de toute façon.
Ils sont très très drôles. Mais on a parlé en off juste avant qu'on commence l'enregistrement de la façon dont genre les comédies françaises, c'est genre soit toujours pareil, soit ça se il propose toujours des choses différentes. On pensait notamment genre Mission Cléopâtre ou OSS 117, qui sont vraiment genre des trucs très visuels et qui marquent vraiment des générations. Et en vrai, Tulina Donakash, on peut vraiment les mettre dedans aussi.
Ouais.
Parce qu'il propose vraiment des choses qui sont très drôles et qui surfent sur un truc populaire. Et
en fait, dans la comédie française, il y a vraiment deux catégories. Ouais, ouais. T'as ceux où c'est lourd, ça se répète, c'est pas drôle, ça joue un peu avec le touchy, racisme, etc. Et d'un autre côté, t'as des productions qui sont très fines, très bien écrites, qui sont à mourir de rire, qui sont touchantes. Ouais.
Et qui, voilà, en fait, c'est ce truc de, il n'y a pas que de l'humour. Il y a aussi un côté un peu touchant. Bah,
oui,
c'est hyper touchant.
Puis réflexionnel.
Exactement. Chez les Ch'tis à ses côtés. Comment,
bienvenue chez les Ch'tis, ça s'appuie sur les clichés régionaux, donc ça va, tu vois.
Antonin a dit qu'il était d'accord, donc on
mais
est d'accord.
C'est très drôle, genre, en vrai, bienvenue chez les Ch'tis, ça marche vraiment beaucoup, enfin, ça marche très très bien, je trouve, genre.
C'est incroyable.
Tout ce truc où, par exemple, genre, il arrive à la frontière, et hop, t'as genre la pluie qui tombe d'un coup, enfin, c'est quand même très réfléchi, tu vois, et on sent quand même que Danny Boone, il a aussi ce côté, on peut dire ce qu'on veut de Danny Boone, mais il a quand même ce côté aussi très, il sait d'où il vient et il s'en moque, tu vois.
C'est ça, il n'y a pas de, y a pas de filtre, en fait.
Ouais, ouais.
On fonce dedans et puis on assume. Puis voilà.
Et en soi, c'était un peu touchant, mais je me rappelle, ils n'ont pas retenté l'expérience après, mais dans un
film. Rien à déclarer.
Ouais, exactement, avec Benoît Poulvord et Danny Boone qui veut prendre le même principe, sauf que c'est... Bah, l'autre catégorie des comédies françaises dont on parlait.
Ouais. Mais qui a quand même super bien marché.
Bah, ça a marché sur la hype de Bienvenue chez les Ch'tis. Et là, on s'est dit, là, c'est franco-belge. Et ils ont
c'est
aussi des accents rigolos. Donc, regardez.
C'est la Ch'tis de famille.
C'est la même affiche.
La Ch'tis de famille.
La Ch'tis de famille.
Putain, avec Lynn Renault, quoi.
J'ai pas vu la Ch'tis de famille.
En tout cas, rien n'est déclaré. C'est exactement la même affiche que Bienvenue chez les Ch'tis. Sauf qu'il n'y a pas les mêmes acteurs.
Ils sont belges, quoi. Rigolez maintenant. Ils sont belges.
Frites.
Bière.
Je pense qu'il y a des frites dans ce film. C'est...
Ouais. Mais oui, non, c'est toujours moins bien. Mais enfin, ça n'empêche que Danny Boone, en vrai, il a quand même fait des bons trucs.
Oui, non, mais bien sûr.
Malgré tout.
Il fait du stand-up.
Ce que je disais un peu, c'est que ce qui fait vraiment un grand film du comédie, c'est soit une masterclass absolue, genre Astérix, Mission Cléopâtre, soit un truc qui a un peu plus de profondeur, genre Intouchable, tu vois.
Ouais.
Voilà.
Et c'est sur ces mots qu'on va passer le micro à quelqu'un d'autre qui veut se dévouer.
Je vois que tu n'es toujours pas prêt. Je vais m'y mettre, du coup.
C'est un peu de sursis.
Ah non, mais c'est bon, j'ai trouvé pendant qu'on réfléchissait. Mais vas-y, quand même.
Moi, je suis parti sur quelque chose de plus récent. En fait, quand j'en parlais avec des potes récemment, et je crois que j'en ai parlé peut-être avec Lise aussi un moment, quand on parle de comédie française en général, et on demande aux gens leur comédie française préférée, on va très vite remarquer que ça a au moins 10 piges, si ce n'est 15, voire 20. Ça va très souvent du Monsieur Cléopâtre, etc. Et je me suis dit, récemment, qu'est-ce qui me faisait vraiment rire sur notre bel hexagone, j'ai pensé à Dupieux. Et c'est pas pour tout le monde, évidemment. Donc j'ai choisi un de ces derniers que j'ai vu, parce que j'ai pas vu Fumer fait tousser.
Je sais pas son meilleur, en plus.
Ah. Et du coup, j'ai pris Incroyable mais vrai, que j'ai trouvé assez sympathique. Je vois que ça ne fait pas l'unanimité. Bah, en même temps, Dupieux fait rarement.
Non, pas d'accord.
J'ai bien fait de rester à côté. J'aurai mon mot à dire après.
Oui, mais en fait, de toute façon, Dupieux ne fait jamais l'unanimité.
Non, mais oui, on en parlera après, mais enfin, genre.
Pourquoi toi, c'est une très une bonne comédie française?
En fait, je l'ai surtout pris pour le côté récent et j'aime bien ce côté absurde de Dupieux. Il arrive, en fait, il fait un format théâtral avec des formats de 1h20, bon, ce qui est souvent des fois chez lui parce que on dirait qu'il ne sait pas finir ses blagues. donc ça va un peu vite, ses conclusions. Mais quand même tout en restant très cinématographique, parce qu'au final il y a un côté très théâtral, parce que ça va être très souvent un lieu, pas une journée et peu de personnages quoi, mais ça reste très cinématographique et ce côté mêlé à ce côté absurde qui fait un peu penser à l'humour anglais, un peu, c'est pas très Monty Python, mais c'est peut-être l'absurdité que Dupieux ramène chez nous et qui nous fait sortir un peu des cases de la comédie française, parce que là quand on demande à quelqu'un de lâcher une comédie française des 10 dernières années, il va ça pas avoir de nom, il va avoir la tête de Christian Clavier avec un costume. Il choisira la couleur du costume qu'il veut et il saura pas te dire le film, hein, mais il te dira je pense qu'il y a Christian Clavier dedans.
Voilà. Et vu ce que tu racontes sur Dupieux, c'est vrai que c'est vrai du coup dans Incroyable mais vrai, mais ce n'est pas vrai dans La mouche là, Mandibule.
Oui. Alors moi je veux juste avant de passer.
Oui, je sais.
Alors, désolé,
j'ai lâché la bombe.
Avant de passer à cette ignominie qui est Mandibule. Incroyable mais vrai, j'ai passé un très mauvais moment. J'ai trouvé que c'était un concept et c'est tout. Et que c'était pas un film.
C'est un concept, je suis d'accord avec toi.
Mais genre, c'est pas un film.
Il n'y a pas de fin.
Et que contrairement à un autre de ces films de ces 10 dernières années, de toute façon c'est pas compliqué, il en sort deux par an.
Oui.
Qui est Au Poste, que je trouve.
Qui est
trop
bien. Mieux.
C'est trop bien.
Qui est Au Poste, qui est drôle, qui a des comédiens impliqués comme dans. Incroyable mais vrai, mais où les personnages sont bien écrits et l'absurde rentre totalement dans la blague. Alors que je trouve qu'Incroyable mais vrai, il a voulu finir un. Comme ça n'avait pas commencé, enfin, je sais pas. Et puis.
Oui, non, mais carrément, oui. Genre, il n'y a pas de. Enfin, tu sens que la dernière partie, genre les 20 dernières minutes. En plus, c'est vrai, parce que, genre, tu sais, la dernière partie pour lui, c'est les 20 dernières minutes, mais le film dure 1h15, tu vois.
Oui, c'est ça.
Et genre, les 20 dernières minutes, c'est vraiment, en fait,
un quart du film.
C'est ça, en fait, c'est un quart du film, et c'est genre un enchaînement de scènes.
J'ai adoré cette partie-là.
À la limite, j'ai trouvé ça bien.
Ouais, l'enchaînement rapide, mais ça va super bien.
Ça n'allait pas avec le rythme du film, tu vois.
Ça allait nulle part. En fait, ça va nulle part, et en même temps. Mais en fait j'aime bien le fait, c'est un peu comme la musique expérimentale, j'aime bien que ça existe parce que sans ça tu peux pas avoir des artistes émergents, des Tame Impala, des trucs comme ça qui arrivent sur le devant de la scène avec toute l'influence que tu prends des expériments, enfin des trucs expérimentaux. Mais par contre les trucs expérimentaux souvent c'est de la merde, et ben là pour le coup Dupieux, ces trois derniers films, c'est de la merde, je trouve.
Alors
après
voilà, c'est un peu catégorique,
pour juste revenir sur le concept de l'absurde avec Au Poste, je trouve qu'il pousse l'absurde encore plus loin dans Réalité, vraiment.
C'est son meilleur.
Qui est vraiment une masterclass.
Là, j'ai pas vu.
Non, mais en gros, juste pour pitcher le truc.
C'est le pneu là ?
Non, Réalité, non. C'est l'histoire d'un mec qui est joué par Alain Chabat. Qui, en gros, veut faire un film un peu complètement barré et tout. Et son producteur lui dit : on le fait si tu trouves le meilleur cri. Et du coup, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment genre 1h15 de genre Alain Chabat qui parcourt les villes de Los Angeles, parce que c'est à l'époque où Quentin Dupieux faisait des films aux États-Unis, et en cherchant le meilleur cri. Et en fait le film est complètement barré, mais c'est vraiment une mastodonte de cinéma et d'humour quoi. Et enfin pour le coup là c'est vraiment de l'absurde, et je trouve ça vraiment dommage que Dupieux, je dis pas que, enfin il essaie de se réinventer, mais ça marche beaucoup moins bien. Enfin, tu vois, genre son dernier film, Fumer fait tousser, c'est vraiment genre des sketchs et c'est que ça. Et en vrai, bah je trouve ça dommage de leur proposer juste des films à sketch alors qu'en vrai le mec pourrait faire juste des courts métrages Studio Bagel, tu vois.
Je pense qu'il va un peu la parole
ouais. Vas-y Simon,
moi,
reprends.
Moi, je suis très content Hector que tu parles de Quentin Dupieux, parce que c'est vrai que c'est un mec qu'on, enfin la comédie française, on va effectivement trop penser à des trucs qui sont bien plus clichés, mais Quentin Dupieux, c'est vrai qu'il a ramené un truc en France actuellement sur les comédies, que ce soit en bossant avec le Palma Show, qui sont quand même cette vibe un peu jeunesse, internet, qui nous plaît, tu vois, ou par le truc novateur qu'il amène par l'absurdité de ses films, notamment avec Mandibule, par exemple, qui est, moi, un film que j'ai kiffé, mais je comprends qu'on kiffe pas, tu vois. C'est, en fait, tous les films de Dupieux que j'ai vus, mais j'en ai vu genre trois, j'ai vu Au Poste, Mandibule, je sais plus quel autre, je les ai kiffés. Non, pas Le Dain, je sais plus.
Le Dain, c'est vraiment barré pour le coup. Enfin, genre,
c'est un de ses plus spéciaux. Enfin,
ouais, c'est vraiment pas, très, très spécial pour le coup.
Tu vois trois Dupieux par an, au milieu, il y a Le Dain. Tu sais pas ce qui s'est passé entre temps, il avait une mauvaise période, il a pris un coup de trop.
Ça a l'air méga spécial, Le Dain. Mais ouais, en fait, c'est des films qui font pas du tout l'unanimité. Mais je trouve que il ramène un truc. Alors bon, dans Mandibule, il y a des trucs, tu sais pas ce qu'ils font là. C'est pas parfait, mais t'as quand même des moments très drôles. T'as comment des.
Elle est iconique.
Elle joue tellement bien ce rôle.
Elle est géniale.
Antonin, reprends le micro, s'il te plaît.
Elle est géniale, mais tu sais, il y a Robin Elvis, t'es en mode basse.
C'est encore plus drôle que
pourquoi elle était là, tu vois.
Adèle Exarchopoulos, ça a vraiment fait penser à genre Noémie Merlant dans L'Innocence, c'est-à-dire genre ces actrices qui en fait vraiment genre ne se prennent plus au sérieux dans leurs films. Et je trouve ça génial.
Mais
en fait, le truc, c'est que.
Léa Seydoux pourrait pas faire ça. Bah, c'est vraiment moi.
Il peut pas faire grand chose.
Bien joué.
Adèle Exarchopoulos dans Mandibule, elle est. En fait, on s'en fiche. Et je pense que c'est Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, on a rien à faire de ses films finalement. Et non, vraiment. Enfin, on voit son étalonnage et son montage, voilà. Et en fait, genre Adèle Exarchopoulos, elle est vraiment genre là, et on se dit, genre le personnage est.
Pourquoi?
Ouais, mais en fait, on en a rien à foutre parce qu'on se dit genre ça vient encore plus pousser le truc dans l'absurde qu'autre chose, tu vois.
Mais j'ai trouvé ce film absurdement vide en fait. Peut-être que c'était le concept du film, mais pour moi j'étais ok.
C'est vraiment une tranche de vie.
Être con en fait.
Et ouais. C'était même pas drôle.
C'est pas du tout rigolé.
C'est vraiment très drôle. C'est vraiment très drôle, genre tout le truc de.
Ludo.
Ouais, Joe. Il y a une mouche dans le coffre. Enfin, genre, c'est ça. En fait,
on en fait quoi?
C'est ça.
Vrai, genre, vraiment pris des personnages qui sortent du Palma Show, là, clairement.
C'est ça. Et le Palma Show, enfin, je trouve que vraiment le Palma Show dans l'univers de Quentin Dupieux, c'est vraiment le meilleur cast possible, tu vois.
Ah oui, ça, je suis d'accord.
Alors que là, par exemple, quand tu regardes, genre, Les Vedettes, qui est un film Palma Show, je trouve que ça marche moins bien parce que t'as vraiment l'impression de voir le Palma Show en film, tu vois. Alors que là, c'est vraiment ce truc de.
J'ai plus eu cette impression-là dans Mandibule que dans Les Vedettes. J'ai plus l'impression de voir les deux personnages un peu teubés du Palma Show. Je sais plus, je crois qu'ils ont un nom. Mis dans un film de Dupieux.
Gaspard et Balthazar.
C'est pas Gaspard et Balthazar, ce nom-là. Gaspard et Balthazar dans un film de Dupieux, c'est interdit en salle.
Je suis assez d'accord.
Parce que la mouche, là, il l'éduque pas. Hein. Ça devient leur objet. Donc.
Oui, non, c'est...
Bref. Mais oui,
Les
Vedettes.
Le film, c'est bizarre, ça. Quand t'as pas vu le film, ta phrase est bizarre. Bref,
oui.
Continue.
Oui, bah, ça part de Dupuis en même temps. Mais oui, je trouve que justement dans Les Vedettes, ils ont aussi plus à se détacher de leurs clichés que dans Max et Léon, qui était vraiment là une succession de sketchs.
Ouais, mais moi, je trouve pas ça très dérangeant. Enfin, je trouve que. J'ai pas vu Les Vedettes, mais Max et Léon, oh, c'est sympa.
C'est sympa, mais.
Le café.
Mais Mandibule, je trouve que c'est un de leurs meilleurs films au Palma Show, tu vois. Enfin, après. C'est mon avis, mais je trouve qu'ils sont un peu. Ils jouent des trucs un peu originaux.
Leur meilleur film, c'est Adieu les cons.
Non mais ils ont une scène dedans.
C'est pour ça que je dis ça.
Et en plus franchement genre Adieu les cons, le film est vraiment beaucoup trop sur côté. C'est quand même
si je vais te couper ton micro toi. C'est pas possible.
C'est quand même non mais Adieu les cons est un film exceptionnel et.
Merci.
Je veux pas écouter quoi que ce soit. Mais je refuse.
Simon est quelqu'un et aime Annette donc déjà de base. Oui non mais tu vois quelqu'un qui aime Annette et qui aime Adieu les cons, c'est quelqu'un qu'on écoute.
Lise, tu détestes Annette.
C'est pour ça que je dis ça, c'est-à-dire qu'il a des goûts de merde mais des goûts de bien à côté.
Voilà, Annette c'est la.
C'est avec Léox Carax.
Ah oui, c'est celui-là que je l'ai vu.
C'est trop bien.
Sympa. Hypnotisant, mais à la fin, je sais pas ce que j'ai vu.
Mais c'est ça qui est génial. On fera un débat Annette en
Annette,
après.
Annette, il va falloir faire après.
C'est pas une comédie de toute façon.
C'est pas une comédie pour le coup. C'est un opéra rock.
Un opéra tout court. Il n'y a pas de rock du tout.
C'est vrai que dans cette émission, on va avoir du mal à parler d'Annette. Puisqu'on n'est pas sûr de la comédie française. Mais. Bref, pour revenir un peu sur le sujet, je trouve que Dupieux du coup est très novateur et je trouve que c'est bien de s'appuyer sur certains des trucs qu'il a fait pour en tout cas que ça peut inspirer des trucs. C'est un peu ce que disait Antonin sur la musique alternative.
C'est ouais. nécessaire, mais pas forcément bien.
C'est... Bah, en fait, en très, en fait très gros je pense résumé. Que c'est nécessaire, c'est pas forcément bien, mais dans le sens ça plaira pas à tout le monde, mais ça plaira oui. même à certaines personnes.
C'est ça.
Je pense et que chaque
c'est le propre du cinéma.
Son spectateur.
C'est le propre du cinéma. Et je trouve c'est... que c'est incroyable chez Dupieux en fait.
C'est plus. En fait, c'est un peu adepte, tu vois.
On peut pas l'éviter. Hein.
T'as 70% de la salle qui vont adorer et 30% qui vont détester, tu vois. Donc c'est un peu là.
Moi, je pense que pour Annette, c'est.
C'est 70-30, c'est pas 50-50.
C'est pas ces pourcentages-là, bon. Mais bon.
Bah écoute.
Passons le micro à Pierre Feuille-Ciseaux, oui. Tu veux y aller ?
Bah si, non. Mais en fait, je réfléchissais parce que je me suis dit, putain, en fait, on parle beaucoup de comédie française. Enfin, du coup, non mais.
C'est un truc, peu le thème.
Non, mais c'est stressant et du coup, je me suis dit.
Du coup, j'ai pris Annette.
On pourrait parler de L'Innocent, on pourrait parler d'Adieu les cons, on pourrait parler de genre 9 mois ferme aussi, qui est le meilleur film de Dupontel.
Mais par exemple, Adieu les cons, pour moi, c'est pas une comédie française, tu vois.
Oui, c'est pas une comédie française, du coup, on en parlera pas. Mais du coup, je me suis dit, je vais remonter vraiment au genre.
Aux sources.
Enfin, ce qui est pour moi, genre, l'une des meilleures comédies françaises qui a jamais été faite.
Roulement de tambour.
Le Père Noël est une ordure.
Oui.
Qui est vraiment un banger de comédie. Qui du coup est réalisé et vraiment avec joué enfin tout du splendide. Du coup, le splendide c'est une troupe avec maintenant des gens un peu enfin voilà.
Qu'on appelle les vieux cons de la comédie française.
Ça, voilà, qui seraient vraiment les vieux cons de la comédie française, à savoir Christian Clavier, Josiane Balasco, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, mais qui c'est très bizarre de dire dans les 70 qu'il réalise vraiment ce film qui est vraiment intemporel pour moi, je trouve.
Il est intemporel.
Qui est vraiment intemporel,
tout.
Qui est vraiment genre bourré de répliques extrêmement drôles, dont une que je ne vais pas faire parce qu'apparemment j'ai une parole à faire, mais qui concerne une femme qui s'appelle Thérèse. voilà, on parle d'une femme aussi qui est coincée dans l'ascenseur, qui s'appelle Madame Musquin. En plus, son nom est très drôle. Et oui, et du coup, je raconte l'histoire, c'est ça, du coup. qui parle en fait simplement d'un bureau par exemple qui s'appelle SOS Détresse Amitié qui en fait est assailli le soir de Noël de demandes en tout genre et de solitude et pendant ce temps il y a l'histoire d'une Josette qui fuit son mari qui est interprété par Gérard Jugnot qui est déguisé en Père Noël du coup d'où le titre en fait finalement.
Vous savez que le Père Noël d'une ordure est une marque déposée. Personne peut utiliser le nom.
Oui.
Ouais.
Oui, qui est à la base une pièce de théâtre d'ailleurs.
Pièce de théâtre.
Et je trouve que, enfin, c'est vraiment quand tu regardes le film, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce bordel. Mais d'un côté, en fait, c'est vraiment et je crois que c'est, je sais plus qui, mais je crois que c'était genre Thierry Lhermitte ou Clavier, j'en sais rien, qui avait même dit publiquement que genre le film n'avait aucun sens et que les répliques ne voulaient rien dire. Et en fait, je trouve que ça vraiment correspond bien le film, c'est-à-dire que c'est un film qui n'a aucun sens, c'est vraiment un film choral où on passe du personnage à personnage, de situation à situation. On se rappellera tous de la scène dans la scène dans l'ascenseur où genre elle est là avec son tournevis et ses cadeaux en train de déballer ses propres cadeaux pour trouver un tournevis qu'elle vient d'acheter. Enfin, ça n'a vraiment aucun sens, mais c'est vraiment c'est extrêmement bien rythmé, c'est très bien joué, c'est très drôle.
C'est du comique absurde, mais c'est quand même super bien écrit.
C'est du comique absurde et ce qui est au-delà de ça, c'est que c'est un film extrêmement vulgaire, c'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup d'insultes, beaucoup d'insultes, beaucoup de gros mots, et même dans le propos le personnage du Père Noël est un personnage qui bat sa femme, du coup c'est pour ça que sa femme s'enfuit, et je trouve qu'il réussit vraiment à tourner la chose de façon extrêmement drôle, et pourtant très...
Sans omettre le fait que c'est un fait
c'est ça,
horrible,
ça,
quoi.
C'est ça, en fait, et je trouve que du coup il y a vraiment... Enfin, il y a plein de choses, tu vois, genre même dans la critique, dans toute la critique des un peu outsiders, tu vois, avec le personnage de Christian Clavier, qui du coup est un personnage qui joue un personnage de travesti, qui finalement est. En fait, ouais, t'as vraiment
le. Bon dedans en plus.
C'est son meilleur rôle.
Oui, c'est vraiment son meilleur rôle.
Il
vraiment...
a piqué il y a 40 ans, quoi. C'est...
Son meilleur rôle, c'est Jacouille, par contre. Son meilleur rôle, c'est Jacouille des visiteurs, je suis désolé.
Ok.
Mais voilà. mais je trouve que, en fait, je trouve que c'est vraiment un film, pas de bons sentiments, parce que voilà, mais c'est un film qui est vraiment très émouvant. Parce que il te propose vraiment des choses, enfin vraiment une réflexion sur la société des années 70, de la France, même de la comédie.
Même tu vois, c'est une réflexion sur la société des années 70, mais il est intemporel ce film. On peut encore le regarder aujourd'hui tout en rigolant.
Du mode.
Oui, non mais.
Et puis quand même, on oublie quand même quelque chose, c'est que je crois que c'est le film où genre t'as la combinaison parfaite entre un costume et un canapé, qu'on se rappellera très bien tous du costume de Thierry Lhermitte,
ouais, de fou.
Qui est mémorable. Et pour ça, enfin pour moi c'est vraiment, pour moi c'est vraiment genre le film quoi. Enfin il y a tout, il y a une scène de danse de slow entre Clavier et l'ermite justement qui est mémorable. T'as la comédie puis la fin et à mourir de rire aussi.
Il y a toutes les répliques qu'on ressort.
Et toutes les répliques qu'on ressort en vraiment. Fait. Enfin tout le c'est cela, tout le
c'est nanana, bon, c'est
Thérèse,
fin,
tout le c'est bon c'est fin.
C'est fin, ça se mange sans fin, ouais. Il y en a plein.
Enfin c'est ouais c'est très très drôle et je regarde s'il y a d'autres anecdotes autour du film, mais
il doit y en avoir plein.
Mais j'en vois mais plein. Enfin j'en ouais bref. Enfin c'est vraiment c'est trop trop drôle. Et puis quand même je pense que ça a vraiment donné un genre, c'est-à-dire que ils ont fait les Bronzés aussi, tu vois, mais en fait les Bronzés
c'est pas pareil.
En fait c'est ça, ça reste beaucoup plus, enfin c'est vraiment je pense la seule comédie du Splendid du moins qui est vraiment
bateau un peu, non?
Ouais, enfin non, c'est
de la comédie mais
qui sort vraiment
pas...
d'ordinaire plutôt de ce qui fait d'habitude, tu vois.
D'accord.
Genre avec vraiment avec ce déjà c'est un film choral, je trouve ça assez exceptionnel que dans les comédies françaises il y ait autant, enfin pas mal de personnages mais tous très bien écrits et quand même portés aussi bien que ça.
Alors que le comique, enfin écrire du comique de la comédie c'est beaucoup plus compliqué que d'écrire du drame.
C'est ça.
Et faire un film choral c'est super compliqué en comédie. Et c'est vrai qu'en France c'est ce qui se fait majoritairement et c'est ce qui marche le mieux.
C'est ça.
Quoi.
Bah, c'est ça. Et en fait, enfin on voit toutes les grosses comédies françaises, bah du type par exemple genre je vais reprendre mais Les Visiteurs qui finalement il y a genre trois personnages à tout casser dans le film
ouais.
Et qui voilà même les visiteurs ça me tue de rire dès que je le vois, ça restera pas, enfin il y a quand même ce truc où en fait on peut se dire les gens sont sacrément cons, tu vois, genre c'est quand même sacrément con, alors que Père Noël Snordure c'est sacrément con mais c'est sacrément c'est ça
c'est réfléchi quoi,
ouais ouais c'est sacrément
intelligent, c'est pas juste de l'absurde qu'on balance
et tu sens que enfin c'est vraiment genre l'œuvre de leur vie finalement du Splendid, parce que en vrai, bah, dans les Bronzés font du ski, à part la crêpe au sucre,
oui, y a
voilà,
pas de...
il n'y a
oui.
pas non plus tant que chose que ça. Quoi.
C'est vrai.
Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Et voilà. Et Simon, toi, tu m'as regardé tout je parlais en mode genre un peu mitigé.
Non, pas du tout. C'est vrai que parce que c'est un film que j'ai vu très très gosse.
Mm-hmm.
Et du coup, j'essayais de me souvenir à chaque fois que tu relevais un truc du film et tout. Je dis, ah, ouais,
mais du coup,
vrai,
c'est une bonne raison que tu puisses le regarder.
Ouais, faudrait que je vois avec mes yeux d'aujourd'hui. Tu vois.
Ouais, ouais.
C'est vrai
que
c'est un film qui m'avait un peu choqué parce que bon, j'étais.
Mais ouais,
qui m'a choqué un peu par sa vulgarité.
Mais ouais, c'est ça. En fait, c'est un film extrêmement. Ça, c'est vraiment un film extrêmement vulgaire. Enfin, même le titre. Juste déjà par le titre. Et je trouve que. Enfin, et pourtant c'est pas du tout vulgaire dans le propos, tu vois.
Ouais. Ouais. Non mais c'est pour ça que ça m'a replongé dans mes souvenirs quoi. Tu vois.
C'est
vraiment la nostalgie. Tu
lui as fait faire
c'est
un
vraiment
flashback.
Genre le c'est horrible ce que je vais dire mais pour moi c'est vraiment genre le film de Noël quoi.
Ah mais clairement
c'est genre
tellement
c'est,
français,
c'est tellement
ouais.
feel good,
ouais,
c'est tellement feel good, enfin ouais. tout marche extrêmement bien. C'est
à côté Love Actually, il peut se brosser quoi.
Non mais en fait c'est pas ça, c'est juste que genre enfin
c'est vrai en plus c'est
en plus vous me connaissez, genre je suis très bon public,
pas
tu possible. Vois. Je suis vraiment très bon public mais pourtant il y a genre 4 comédies françaises qui me font vraiment toujours autant rire. C'est vraiment genre Mission Cléopâtre, La Cité de la Peur, OSS 117 et Les Pères Noël c'est une ordure quoi. C'est-à-dire que même
que
si non mais c'est-à-dire que même si Papy la Résistance c'est extrêmement drôle parce que Papy la Résistance enfin voilà, mais c'est juste que ça reste pas autant parce que enfin ça reste pas autant parce que Surtout, vu le parcours qu'ils ont eu derrière les acteurs, on sait que, enfin, on sait pas, la résidence, c'est un peu perturbant, tu vois.
Simon,
alors que là, il
n'y
a pas du tout politique
dire.
Ou quoi.
Ouais, non, moi, je pensais à un truc. C'est vrai que les 4 films que je viens de citer sont absolument incroyables. Mais je pense qu'il y a encore plus iconique et intemporel que ça.
Vas-y.
Les films de Funès.
Oui.
Oui, bah oui. Non, mais
la grande vadrouille.
Oui, la grande vadrouille. Ouais. Mais pareil, mais en fait, le truc, c'est
tellement incroyable.
Alors, je critique pas Funès, mais
j'en
Funès
ai vu
fait
aucun.
Du Funès, tu vois. C'est-à-dire que c'est très drôle, mais De Funès fait du De Funès dans ses films. Et c'est pour ça que je l'ai pas forcément...
Le Splendid fait du Splendid.
Oui, mais,
voilà.
ouais, mais, sauf, ouais. Ouais, mais sauf que tu vois, le Splendid a
il
fait aussi
tout,
le Bronzé.
Mais, leur...
mais je trouve que les Bronzés, c'est moins drôle et moins intemporel
oui,
que
reste...
les Père Noël.
Oui, mais ça reste
Jacob,
du Jacob,
c'est
ça
vraiment...
Reste
mais,
du
c'est pas genre De Funès, c'est du Funès. J'ai Rémi Jacob, pas du tout. Tu
bien
vois,
sûr,
je trouve, tu vois.
Bien sûr. Mais enfin, moi, mais tout. Genre même l'avare avec toute cette histoire de cassette. Après, c'est de Molière, mais genre la façon dont De Funès joue Molière, c'est incroyable, tu vois. Ou même La Folie des Grandeurs avec toute cette scène du début où genre il est l'or monseigneur et ce
scène qui a été improvisée, c'était pas du tout
ouais,
dans le scénario et c'est devenu une
mais
scène
tout, enfin genre même si des fantomas et tout ça, enfin c'est incroyable, tu
ouais.
vois.
Enfin c'est vrai qu'en France on a un
super gros patrimoine de films de films comédie français, et c'est vraiment un genre qui existe
et
depuis longtemps
très
et qui
compliqué de se
renouvelle
réinventer.
beaucoup
ouais. Ouais, ouais, mais c'est, du coup c'est très compliqué de se réinventer
c'est
derrière quoi.
C'est compliqué mais comme on l'a dit ça il y a quand même des trucs
je pense que ces dernières années il y a eu vraiment des bonnes propositions de comédie française.
Bah, le sens de la fête pour moi c'est un très bon exemple.
Au-delà de ce que vous avez dit, genre même par exemple je pense à un film qui est pas forcément très connu mais qui s'appelle Le Retour du Héros avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent qui je trouve franchement est vraiment très drôle. Qui est une comédie en costume, enfin non mais il y a vraiment eu des choses où, tu vois même toutes les nouvelles enfin c'est du coup maintenant
ce film est un film oubliable. Je viens de voir la jaquette,
je l'ai vu au cinéma, je me rappelle des sièges.
Ouais moi aussi.
Ah, mais moi,
c'est un film
les costumes étaient jolis,
c'est vraiment
Mélanie Laurent est excellente dedans et mais c'est un film oubliable.
Mais après il y a plein de choses, tu vois, je pense aussi au je pense aussi genre au discours, tu vois, avec Benjamin Laverne qui
est excellent
qui
mais
est
il a pas eu une très bonne
très drôle ou même si on monte un peu avant à Didier qui me tue de rire, ou même tout ce truc avec genre Jean-Pierre Bacri,
Agnès Jaoui,
ouais,
Alain
duo,
René,
genre, ouais c'est ça, genre tous les duos,
le trio là,
ouais genre OK de la chanson, Smoking the Smoking.
Exactement. Et bah d'ailleurs si vous êtes fan d'Alain René, il y a un documentaire sur Arte qui retrace toute l'œuvre cinématographique de Alain René et il y a beaucoup de films dans le dont on parle, notamment avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Smoking the Smoking.
Ouais, ouais. Mais
on connaît la chanson. Bref, ce sont des recommandations.
J'avais juste, enfin vas-y, enfin une anecdote sur ça. Parce que j'ai vu On connaît la chanson pour la première fois il y a 2 ans, lors d'un cycle justement Alain René à la Cinémathèque.
Wow.
Et en fait, On connaît la chanson était du coup présentée parce que les acteurs sont encore en vie. Enfin, sauf Bacri, du coup, paix à son âme. Mais du coup, il était présenté parce que pareil, On connaît la chanson, c'est un casting pareil, enfin royal. T'as genre Thierry Lhermitte dedans aussi. Ouais, si, ça a vraiment.
Non,
il y a Thierry Lhermitte, t'as Agnès Jaoui. Et t'as plein d'acteurs qui sont maintenant en vrai un peu cringe genre. Mais...
Il y a Agnès Jaoui, André Dussolier, Lambert Wilson, Jean-Pierre Bacri, Pierre Arditi, Sabine Azéma. Il n'y a pas du tout Thierry Lhermitte dedans.
Ok, bah je confonds avec un autre film.
Lequel...
Mais en tout cas, enfin voilà,
on
mais en tout cas,
la chanson.
Je sais qu'il y a John Birkin à un moment qui apparaît. Et... Mais bref, et en fait, tout ça pour dire que je les ai vus, enfin moi, enfin ils étaient venus en fait présenter On connaît la chanson à la fin du film. Et du coup, il y avait, que je ne sais pas de bêtises, il y avait Dussolier, Azéma et Jaoui, je crois. Et je crois un mec qui s'occupait de la technique, genre du son, parce que du coup le film, d'ailleurs le pitch est incroyable, c'est en fait, c'est une fausse comédie musicale où en gros c'est genre des chansons déjà existantes qui accentuent tout le film. Donc du coup il y a une séquence qui est géniale avec Vivre qui est super drôle où tu vois genre un playback vraiment et un énorme lip sync. C'est quoi, c'est lip sync.
Oui, karaoké.
Ouais, un énorme playback genre de Agnès Jaoui, non de Sabrina Azéma plutôt qui chante. Enfin, du France Gall et tout, c'est vraiment très mémorable. Et en fait, il disait, par rapport à ça, que Alain René a vraiment réinventé la comédie française. Et je pense que c'est même plus que ça, c'est vraiment la rencontre entre Bacri, Jaoui et Alain René qui a vraiment apporté un souffle.
Et qui va continuer pendant longtemps, parce que la plupart des productions futures d'Alain René ont été écrites, notamment dans les dialogues, par Bacri et Jaoui.
Ouais, ouais, mais Alain René est dingue. Enfin, je veux dire, genre, le mec, il te fait des drames genre adaptés de Duras, et derrière, il te fait vraiment de la comédie française pure et dure. Et vraiment, il racontait, par rapport à aucune chanson, genre le pitch de base, où en gros, c'est vraiment... parce qu'en vrai, on dit que c'est René, mais en vrai, le vrai duo très comique, c'est Bacri-Jaoui.
Ils ont écrit
tout ce qu'ils font, mais
grande
c'est
partie
dingue,
du scénario,
tu vois.
Ouais.
Et en fait, c'est ça, et c'est vraiment, et c'est René qui a eu cette idée de chanson d'ailleurs par-dessus. Et je trouve ça, bref, c'était un génie. Et regardez le documentaire du coup, mais en fait, vraiment, regardez toute la
filmographie de René.
Les collaborations entre ce trio là qui sont aussi des chefs-d'œuvre de comédie, mais qui en fait, finalement, ne font pas forcément autant rire que tous les films qu'on a cités, mais qui en fait tu sens que c'est tellement sincère dans la démarche.
Oui, et puis ça te fait réfléchir sur. C'est souvent des critiques de la société, de la condition humaine, etc. entourées de comédie, mais.
Oui, et en fait, j'en parle pas du tout pour tangiverser. J'en parle pour vraiment dire que finalement maintenant c'est pas du tout ça la comédie française que nous on voit en tant que comédie française populaire.
Oui, c'est pipi caca, on rigole.
Voilà. Et du coup, bah, enfin, je voulais juste du coup en fait, faire une transition. J'étais un peu pris de ta place, mais du coup, je te redonne ta place de meneur. et je te laisse avec cette transition.
Merci.
Voilà.
Alors, qu'est-ce que je vais faire de cette transition
Présenter ton film.
Mon film, mais mon film n'est pas un pipi caca. Ah, c'est drôle. Ouais. Non, c'est, mais c'est un film qu'on a tendance à oublier, mais quand on dit le titre, on est mais oui, ce film.
Ah, je sais de quoi tu vas parler.
Ouais, et je vais parler déjà de... des choses à dire.
Tu vas parler de Aladdin, c'est ça
Aladdin. Aladdin.
Aladdin, mais oui.
Tellement supérieur, c'est rare qu'une suite soit aussi, aussi haut par rapport.
Est-ce
à
que, est-ce que vous vous souvenez de Aladdin, l'apparition du génie
Non, mais on va pas vraiment.
On va pas parler d'Aladdin. Non, là, je te
blague.
Coupe.
C'est
je
vraiment...
te coupe. Okay. On va pas parler.
C'était même pas ton tour.
C'était une mention noramico. Mais...
Bref, le film dont je vais parler est un film de Alexandre de la Patelière et de Mathieu Delaporte avec comme casting Patrick Bruel, Valérie Benguigui et d'autres encore, qui est sorti en 2012 et qui s'appelle Le Prénom.
Oui.
Qui Adolphe. Est une pièce
avec
de théâtre.
Avec Guillaume de Tonguedec.
Avec Guillaume de Tonguedec, qui s'appelle La Prune dans ce film. c'est un film que bah, je pense que tout le monde le connaît ou tout le monde l'a vu ici.
Qui a quand même gagné trois Césars, disons-le. Hein.
Qui a gagné trois Césars.
J'adore ce film.
Il est excellent.
Voilà, j'adore celui. Il est à l'origine d'une de mes vidéos YouTube préférées, qui, genre Le Prénom, mais par le Palmacho.
Ah oui,
oui. Qui, bah, c'est
il a aussi. Vas-y, je te laisse en parler.
Il te fait annuler le prototype.
En fait,
merci d'avoir cette citation.
Moi, je vais vous dire ma fiche. Il y a juste, y a les, enfin, c'est une fiche Wikipédia sans les infos importantes. Donc, je suis d'avis que tout le monde alimente parce que tout le monde a vu ce film. Donc, c'est très utile du coup que vous puissiez prendre le micro pour parler. Mais ce film est juste drôle en fait. C'est pas une réflexion de la société. Enfin, si un petit peu quand même. Hein. Ça effleure des sujets sans vraiment.
Ça effleure un sujet précis qui
un
est.
Sujet
le
précis.
Oui, ça, mais après, ça veut pas se moraliste, tu vois. Sur
ça
un
se
sujet.
Veut pas du tout moraliste. Exactement. Et c'est un film choral et c'est un film. C'est un huis clos d'ailleurs parce que ça se passe dans l'appartement des amis de Patrick.
De Valérie Benguigui.
Qui a un monologue incroyable
émouvant.
Dans ce film, émouvant.
César Mératrice.
Mératrice
secondaire ou Mératrice, je ne sais plus, mais l'un des deux.
Et elle le mérite complètement. C'est un monologue sur. Elle craque dû à la charge parentale, enfin mentale, qu'elle se prend dans son couple. Elle s'occupe des gosses, elle a sacrifié sa carrière pour celle de son mari, elle aide son mari dans sa carrière parce que c'est elle qui écrit la plupart de ses thèses. Enfin bref. Et c'est.
C'est pas Patrick Bruel, c'est son
frère.
Ouais, justement.
Ah, oui, ça.
Et pour dire que. En fait, c'est un repas familial qui part en cacahuètes.
Oh non, c'est un repas. C'est pas amical plutôt ?
Amical, familial. Il y a frère, soeur, beau-frère.
Amis et proches de famille.
Oui. C'est ça. Et ça part en couille totale à cause d'une blague de Bruel, en fait, tout simplement. Il a décidé. On lui demande le prénom du futur gosse qu'il va avoir, et lui, il dit Adolphe. Et ça part en cacahuète parce qu'on lui dit tu ne peux pas donner ce prénom. Il dit mais si, c'est l'écrivain, voyons, machin.
C'est génial.
C'est génialissime, c'est bien
Adolphe,
écrit.
Adolphe, A-D-O-L-F.
Ça, oui, oui, voilà.
Mais
pas écrit.
PH à la fin.
PH, parce que F c'est Hitler et PH c'est pas.
Et rien que
Hitler.
Là, tu vois, de tous les films qui ont été évoqués là, c'est vraiment le film que j'ai le plus envie de revoir, je pense.
Bah, moi aussi.
Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu.
En termes de feel
good. Je crois que je l'ai revu pendant le confinement.
En termes de feel good, ce film,
j'ai je l'ai vu au lycée, mais j'ai eu une grosse claque, quoi. Ouais. Alors, j'entrais dans le cours de cinéma et j'ai fait ok, bah ça c'est du cinéma.
C'est une finesse d'écriture.
Ouais, et de incroyable. Incroyable. Ouais.
Franchement, Patrick Bruel, honnêtement, on peut dire ce qu'on veut, mais
il
dans
est
ce
bon
film,
acteur.
Il est incroyable.
Il est bon
Guillaume
acteur.
Guillaume de Tonguedec et du Tonquedec.
Je me souviens même plus que c'était Patrick Bruel, et maintenant que vous le dites,
c'est Patrick Bruel. C'est Patrick Bruel,
très très fort. Incroyable ce mec, vraiment.
Ils ont un truc vraiment de.
Et c'est un, film qu'on oublie, mais dès qu'on dit le nom, on fait ah non, mais c'est bon, je me souviens, je connais.
Il a été un film, je pense, un peu bouddha à sa sortie et qui maintenant commence.
Non, il a plutôt bien marché à sa sortie. C'est quoi, c'est 2012
Je pense, 2012. C'est pas un flop déjà, je pense. Et je pense qu'il a eu son succès, il n'a pas transcendé non plus. Quoi.
Il n'est pas resté dans la postérité, quoi.
Pour ceux qui l'ont vu, si, je pense.
Oui, c'est ça, mais.
Oui, mais du coup, oui, t'as raison. Il n'y a pas assez de gens qui l'ont vu.
Voilà. Et même. Plein de gens n'ont pas vu Star Wars, tu leur dis je suis ton père,
bien sûr,
Star Wars,
bien sûr,
tu vois.
Alors, oui, après le Star Wars et le prénom.
Oui, bon, bah, t'as compris quand même.
Adolphe Skywalker, ça marche moyen. mais juste par contre, petite remarque sur les deux derniers films choisis, qui étaient Le Père Noël est une ordure et Le Prénom. Est-ce que, en fait, vous n'êtes pas juste fan de théâtre ? Parce que oui. C'est un peu ce que j'aimerais soulever, parce que là-dessus, et même moi, le sujet que j'ai choisi, c'est très théâtre.
Ouais,
c'est
très théâtral.
C'est en plus ce que je voulais dire aussi. Ouais.
Bah mais... En fait, même dans les films d'Alain René, notamment dans Smoking, No Smoking, ils reprennent les codes
dans
du
Mélo,
théâtre. Dans Mélo aussi. Ils reprennent les codes du théâtre. Et ils le font en film en fait.
Parce que là c'est carrément des pièces que,
oui, oui, qui ont été adaptées, qui ont été adaptées, mais même dans que... la forme pour certains films, je reprends d'Alain René, le théâtre est en fait une base très solide dans la construction de films comédie quoi, ouais. Comique.
Ouais, est-ce que du coup Hector, ouais. Tu penses que c'est injuste entre guillemets en termes de comédie de adapter, enfin parce que du coup l'origine, bon sauf le prénom, c'est vraiment de la Patelière et l'autre dont j'ai oublié le prénom qui vraiment sont à l'origine de la pièce. Exactement comme Edmond avec ou Michalik a écrit la pièce et mis en scène le film. Pour le coup, est-ce que il y a une autre façon de faire la comédie au théâtre qu'au cinéma?
Alors je pense, en fait, moi je trouve que c'était pas injuste ou autre comme tu demandais.
Okay. Non mais c'est pas pour ça. C'est un débat intéressant, tu vois.
En fait, je trouve que du coup la comédie française, elle se repose beaucoup plus sur des codes de théâtre, donc sur l'humour situationnel, etc., que sur de l'humour purement cinématographique, en fait. Mmh. On va rarement faire rire directement par l'image, mais par le dialogue, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Hein. Évidemment, la comédie, ça passe par le dialogue, mais le cinéma, c'est pas que parler aussi.
Ouais, mais tiens, par exemple, tu vois, en vrai, il y a beaucoup de comédies françaises qui sont un peu dans un lieu fixe, pas forcément des huis clos, mais qui sont comme dans un lieu fixe. Mmh. C'est un film qui, c'est pas genre qui voyage souvent, tu vois. Et genre après, où tu vois, où vous reprenez par exemple genre les Chabas et Asavisus qui vraiment passent quand même par l'image pour le coup pour faire vraiment rire et en vrai dans Père Noël est une ordure, il y a aussi quand même un peu ça, tu vois, genre le costume de Thierry Lhermitte par exemple, tous les plans sur l'ascenseur.
Mais pour reprendre ce que tu as dit en fait, en comédie française notamment, l'humour passe énormément par le dialogue, chose qui arrive au théâtre effectivement, mais justement dans tous les films qu'on a choisis, bon peut-être pas le tien vu que c'est quand même comédie drame, c'est un peu plus émotionnel que rigolo on va dire. L'humour passe majoritairement par le dialogue, mais c'est tellement bien écrit. Alors que c'est très facile de faire des daubes avec.
Bien sûr.
Le prochain Astérix, c'est un bon exemple. Tout passe par le dialogue, mais c'est pas forcément drôle. La bande-annonce, ça me suffit. Non, je rigole.
franchement, après, pense que vous l'aurez. Enfin, il sera déjà sorti peut-être. Au moment où voilà. Mais en vrai, comme ça donne un peu en même temps un avis. C'est pas si nul que ça. Ça vaut pas Mission Cléopâtre évidemment parce que
de toute façon la barre est tellement haute,
La barre est tellement haute, l'écriture des dialogues pour le comique est excellente, toutes les références à notre époque
c'est un film d'époque, enfin genre dans 20 ans on l'aura oublié parce que genre Angèle Orelsan, tu vois. Mais franchement c'est très drôle, mais oui, enfin Mission Cléopâtre c'est un truc qui genre la première scène avec Monica Bellucci en contre-plan comme ça qui fait assez, enfin t'es en mode genre okay, c'est génial, tu vois.
Mais c'est vrai que les films, j'ai pas d'idée de films comiques français, de comédies françaises qui se reposent pas. Non, mais qui se reposent pas sur le dialogue principalement, mais sur du cinéma, c'est-à-dire la mise en scène. C'est pas une critique, mais c'est important de le soulever que majoritairement ça passe par le dialogue.
Tu vois, par exemple, tu penses à Monty Python, La vie de Brian. T'as des blagues genre qui se reposent uniquement sur le cinéma qu'on pourrait pas faire au théâtre. En fait, j'ai envie de les comparer comme ça. À un moment, ils veulent fouiller un appartement qui fait genre vraiment 12 mètres carrés. Hein, et tu vois genre 50 centurions qui rentrent et ils ressortent genre 5 secondes plus tard, ils font « y a rien ». Mais genre vraiment, c'est le gag de la voiture de clown version époque romaine. Tu pourrais pas faire ça au cinéma, au théâtre.
Les Monty Python, c'est pareil, c'est genre complètement... à part, ils ont genre leurs univers.
Oui,
c'est vraiment genre les Quentin
Dupieux. C'est du blague cinéma, tu vois, c'est ça que je veux dire.
Ça reste de la comédie, donc pourquoi pas.
Sûr. Mais je pense que c'est un genre très dur, la comédie. Enfin, c'est vraiment très dur d'écrire une comédie. Genre, un truc qui fait.
C'est super.
Un
compliqué.
Truc très drôle. C'est-à-dire que, en vrai, je vais pas du tout critiquer, genre, Cotillard, Cédoux et tout ça, mais genre. Franchement, genre, faire des films où tu. Enfin, où, genre, les personnages pleurent. Enfin, pas tout le monde peut le faire, mais en vrai, genre, c'est un peu toujours basique et bateau, tu vois.
Facile d'émouvoir que de faire.
C'est ça.
Rire.
Alors que vraiment, faire rire, il y a une précision. Enfin. Pour vraiment faire rire et vraiment entre en plus avoir une comédie qui marche et qui reste ancrée dans la pensée des spectateurs, c'est vraiment, ça passe vraiment partout, par le choix du cast, par l'écriture du dialogue, par la situation.
Je suis pas d'accord.
Vas-y.
Pas d'accord parce que je pense que les deux sont très durs, l'un dans l'autre. Je pense que c'est selon vos critères que c'est facile, mais Non, pas que je sabote ou je crache sur ces films, mais tu prends un camping ou un film du genre, c'est pas extrêmement dur de faire rire. En fait, c'est dur de faire rire tout le monde, peut-être.
C'est dur mais... de faire rire sur la durée.
Oui, c'est ça, c'est sur la durée.
De garder le rythme. J'ai pas vu
les
campings.
Les tuches,
pas
les tuches,
camping. C'est pas drôle, les tuches.
Mais pour toi, oui.
C'est des, dans les plus gros box-office.
C'est pour ça que je dis que selon vos critères. Mais
moi, je parlais plus.
Aujourd'hui, tu veux faire un film comédie à succès, je t'assure que c'est aussi dur que faire un film dramatique à succès.
Moi, je te parlais plus de la façon de l'intemporalité de la comédie française. Tu vois, genre toutes les comédies françaises un peu intemporelles, c'est justement ces choses-là, tu vois.
Peut-être que c'est ce qui fait une grande comédie, mais je sais pas. En tout cas,
c'est peut-être pas dur d'écrire de la comédie, mais c'est peut-être dur d'écrire de la bonne comédie.
En vrai, ouais, c'est vraiment compliqué de faire rire toute une salle.
Et au-delà, ouais, je suis d'accord, mais de la comédie. Voilà.
En vrai, rien n'est difficile à écrire. Et c'est au final. Mais pour en faire quelque chose de bien, c'est pour sortir les doigts des fesses. Quoi,
et au-delà de ça, il y a le fait de jouer de la comédie. Je pense que c'est encore plus dur que d'écrire la comédie.
Parce qu'un bon
acteur de comédie. Enfin, en vrai, tout le monde peut faire la comédie, mais je veux dire, les acteurs qui, enfin, vraiment jouent la comédie, ils dégagent vraiment quelque chose à l'écran, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas forcément. Enfin, je veux dire, tu vois, genre, tu vois Dujardin, ouais, c'est 117. Tu te dis, genre.
Mais il y a personne d'autre que Dujardin.
Oui, non, mais genre juste pas. Juste par sa prestance, tu vois. Alors que tu vois Dujardin, genre dans The Artist, j'adore The Artist par exemple, mais qui est pas une, enfin qui est pas une comédie, pas non plus un drame, enfin c'est un peu entre les deux. Bah, enfin c'est très dur aussi, mais en c'est fait, complètement c'est différent. Comédie, en fait, c'est une autre façon d'appréhender le cinéma, tu vois.
Mais il suffit de voir sur internet en ce moment, il y en a beaucoup qui sortent. C'est le texte, alors l'image est coupée en deux, l'écran est coupé en deux, et il y a le texte qui défile en dessous. Le texte un dialogue de scénario, et au-dessus il y a le passage qui a été filmé et tout, et en fait on se rend compte que si nous on lit le texte, on le lit d'une manière qui n'est pas drôle par exemple, et quand on voit l'interprétation c'est excellent, donc ça ne passe pas que par l'écriture
mais
aussi
parce qu'une blague c'est parce qu'une blague c'est tellement de choses, je veux dire, même en fait tu peux avoir une bonne blague dans ce que t'écris. Il suffit qu'elle dure une seconde de trop au montage et ta blague elle passe de génial à cringe, vraiment. En fait. C'est, si tu cutes pas au bon moment, si tu veux laisser un peu exprès pour que ça soit gênant, si tu le laisses 5 secondes et pas 6, les gens ils vont juste te dire pourquoi c'était long.
Après, il y en a qui s'amusent avec ça.
Bah, l'écriture d'une comédie, que ce soit française ou non, ça passe par le scénario, par le montage, par la réalisation, par l'acteur, etc. Pareil pour tout ce qui est drame, mais j'ai l'impression qu'en drame, c'est plus facile de pas se rater, quoi, en gros.
Moi, je trouve que
si tu veux une scène d'émotion réussie, il faut pas faire n'importe quoi montage, de la musique ou, enfin tu vois, enfin il y a aussi tout un art, je trouve. Après c'est mon avis, mais moi j'aimerais bien revenir un peu au théâtre parce que moi c'est un genre que j'adore, j'ai fait 8 ans de théâtre, j'ai eu des cours de théâtre, et c'est vrai que il y a ce côté où nous en France on a eu toute l'influence grâce aux grands dramaturges qu'on a eu. Racine, bon ça c'est plus pour comédie-trice, mais aussi
du drame,
comédie dramatique,
du drame.
Je crois qu'on dit
Racine
ça comme ça,
c'est pas de la comédie, c'est du drame.
Comédie dramatique, non ça se dit pas.
C'est venu bien après.
Au théâtre, ouais, y a pas.
Avant c'était drame comédie, et après le mélange est venu.
Mais du coup oui, donc le drame de Racine et la comédie de Molière par exemple, tu vois. Et du coup c'est pour ça qu'on a un humour vraiment propre en France. À nous, tu vois.
Parce qu'on a des bonnes bases, on va dire.
Parce qu'on a des très bonnes bases et ça vient du théâtre.
On a un patrimoine assez complet.
Et quand on disait ce truc de la blague, il faut bien l'écrire et tout, tous les acteurs, enfin, les comédiens de théâtre, mais ça peut s'appliquer au cinéma, quand ils lisent la blague, ils trouvent pas ça drôle. La plupart des pièces dans lesquelles j'ai joué, tu lis le truc et t'es c'est pas drôle et tout. Et en fait, la façon dont je le mets en scène, la façon dont je la joue, tout le rire passe. Par cette façon d'interpréter, c'est pour ça qu'un metteur en scène c'est méga important et que qu'un scénariste c'est bien, mais que voilà. Et du coup, tout ça pour dire que un film, pour qu'un film de comédie soit marrant, il faut qu'il y ait vraiment cet effort de rassembler tout ça. Et il y a des différences parce qu'au théâtre, tu vas faire ta blague, mais là les gens ils vont rigoler. Du coup, tu vas attendre 3 secondes, genre la personne elle va faire. Enfin, tu vois, genre Bakri au théâtre, il jouerait pas du tout comme il le jouerait.
Clairement pas, parce que t'as plus de possibilités de changer, de bouger, de t'adapter à ton public. Exactement. Alors qu'à l'écran, c'est filmé, c'est fini. Ouais. Quoi. Il y a 3 temps à l'écran. Enfin, en cinéma, t'as 3 temps. Le temps, ouais, où tu tournes, le temps où tu. Le temps où t'écris, où tu tournes et où tu projettes.
Ouais.
Et il faut pouvoir penser sur les 3 temps en même temps quand tu es qu'au premier.
Mmh, mmh. Ouais.
Alors qu'au théâtre. Freestyle, quoi, tu as beaucoup plus de liberté.
Et je trouve que au-delà de ça, ou par exemple, tu vois, il y a un nombre de comédies françaises qui sortent en salle, mais en vrai, chaque année, il y en a genre une, tu vois, ou enfin
qui sort du lot.
Ouais, qui sort vraiment du lot. Ou là où par exemple, bah le drame, en vrai, enfin c'est beaucoup plus facile, genre de dire ce film est génial.
Sortir du drame. Ouais, c'est ça, sortir genre, du lot quand tu fais du drame.
C'est ça, c'est beaucoup plus facile de dire ce film est génial sur un drame parce que je dis pas qu'il y a que ça qui sort, mais en vrai tu regardes genre sur pas mal de sorties, c'est quasiment que des drames, tu vois, parce que c'est beaucoup plus simple, peut-être moins noble.
Peut-être.
Voilà. Mais c'est mon avis. Ça, enfin, je crache pas du tout sur le
mieux, quoi,
drame. Attention, hein, genre,
ça marche
peut-être
mieux.
Peut-être que ça marche mieux, mais d'un autre côté, je trouve. Pas, enfin, je trouve que en termes de box office, on fait plus.
Oui, non, mais, là, je parle pas du tout en termes de box office. En termes
de production, je pense que les gens sont plus inspirés pour faire du drame parce que les gens sont juste plus dépressifs, mais.
Overall,
non, pas forcément. Parce que tu vois, tu peux faire des très bons drames qui sortent de l'ordinaire. Je pense à Les Enfants des Autres, par exemple, qui sortent vraiment du lot, pour le coup, en termes de.
J'ai été snobé au César,
j'ai dit. C'est pas le sujet, Lise, mais.
Oui, mais je tiens à le préciser.
Enfin, tu vois, où ils sont vraiment des. Où tu peux faire vraiment genre. Le drame te laisse beaucoup plus de liberté pour aborder certains thèmes, là où par exemple en comédie tu sais que bah enfin c'est pas tu peux pas rire de tout, mais il y a une façon de rire de tout, tu vois, qui est beaucoup plus compliquée.
Ouais, ça dépend.
Et du coup c'est là où justement il y a cette justesse d'écriture qui est très importante, où en vrai le drame généralement
tu peux
c'est
pleurer
genre
de tout.
C'est ça, genre tu peux pleurer de tout, tu vois.
Quand tu mets le personnage d'un enfant au début, si au bout de une heure de film l'enfant il est mort, oui, tu veux, c'est du tire-larme, mais c'est facile,
ouais,
à faire.
Ouais, mais facile à faire, que...
Bah non, ça peut être insupportable. Enfin, je
ça peut
que...
être oui.
Non, mais ça dépend. Ça,
mais
dépend,
en fait,
genre,
tu vois.
Genre... voir Paris, je trouvais ça insupportable parce que, genre, en vrai, c'est genre des zooms sur la caméra, sur le plan de Virginie Fira, qui est très belle, certes, mais c'est ça pendant 2 heures, tu vois. Alors que, bah, enfin. La comédie, c'est même, c'est pas, enfin la comédie, c'est même une façon de filmer. Enfin, je veux dire, si tu fais une comédie avec genre un plan qui zoome comme ça sur la tête du personnage et que le personnage reste inexpressif, bah
c'est drôle.
Ouais, mais enfin ça dépend de la situation, tu vois.
Bah comme ça dépend de la situation dans le drame, hein. Un gros plan sur une tête démembrée, c'est plutôt dégueulasse plus que triste. Ouais.
Mais,
je sais
mais,
pas.
Du coup,
ouais, mais
ça
peut faire
mais
du coup aussi, pour
bah, en fait ce que je voulais dire, c'était sur les non mais sur les comédies aussi en général, c'est que ok, on en produit beaucoup en France. Mais combien on en retient à chaque fois par an ? Je veux dire, quand on regarde ça, juste ouais, la série des Astérix, on cite tous le même qui date de genre 2003. Il y en a eu 4 autres. 2002. Ouais. Pardon. Il y en a eu 4 autres entre temps. À part leur pisser dessus, est-ce que quelqu'un a retenu une scène, quoi ?
Mais au service de sa majesté, bah, au service de sa majesté,
il est trop
incroyable.
Bien.
J'ai adoré ça, sa majesté, genre quand t'as genre le menhir qui tombe sur les chiens.
Ouais,
t'as ce plan de Catherine.
Guillaume Gallienne en.
Filmé autrement, ça fait pleurer.
Danny Boone en Viking.
Ça par contre, ça, j'ai oublié.
Danny
Boone
qui...
Catherine Deneuve.
Ouais, non, mais
c'est, en c'est... reine anglaise.
Il y a plein de trucs. Genre, Aline est extrêmement drôle aussi.
J'ai pas vu.
C'est très low.
Qu'on en dit.
Low.
Oui.
C'est-à-dire nul.
Oui, bon, on a compris.
Non,
est-ce
mais
que...
désolé, mais enfin, il y a tellement de films beaucoup plus innovants depuis. Enfin, par exemple, là, on parle de Guillaume et les garçons à table. Génial.
Il est incroyable.
Oui,
c'est
très cool.
Mais c'est quand même
très innovant.
C'est comédie, mais dramatique un peu quand même, parce que.
C'est comédie.
On adore les comédies dramatiques.
Mais de toute façon, oui, ça c'est effectivement, mais. De toute façon, on a souvent ce truc d'opposer la comédie au drame et tout, alors que tu vois, au final,
non, mais
c'est, non,
mais bien
ça
sûr,
peut
c'est,
se compléter.
C'est,
ouais.
Non, mais c'est oui, c'est deux genres qui se complètent et qui sont différents et tout. Mais tiens, par exemple, genre, je prends un truc tout bête, mais genre, le fait que genre les César, par exemple, ou les Académies, même Oscar et tout, snob les comédies, ouais, ça veut tout dire, toi, de la place de la comédie.
Bah, c'est
dans
pas.
La, du
si tu parlais d'art noble,
alors que justement, je trouve ça beaucoup plus dur de faire rire des gens, ou par exemple, tu vois, genre, je prends le prénom qui a été nommé au César. C'est très drôle, enfin je veux dire, il y a tellement de comédies où tu vois, genre, par exemple, le Splendid, oui, mais le Splendid par exemple n'a jamais eu de César de leur vie, alors que Pernel est une ordure, enfin c'est en termes d'interprétation, c'est extrêmement dur. Je veux dire, Christian Clavier, juste le personnage de Christian Clavier en trans, c'est extrêmement dur à jouer,
ouais,
et si tu le fais mal, ça peut vraiment être cringe et ça peut vraiment pas du tout faire honneur, tu vois.
Mais les
alors, César... alors que là, c'est très beau, c'est très émouvant. Non, tu vois.
Les César, c'est
le problème des remises de prix et des cérémonies style César, c'est que c'est plutôt des cérémonies qui sont pas destinées en fait à l'humour. C'est pour ça qu'il y a aussi des festivals, je crois, de prix d'humour,
comédie,
ou de comédie et tout.
Après, c'est le festival d'Abduez et franchement, c'est pas non plus les meilleures comédies.
Bah,
je pense qu'on devrait faire un podcast spécial sur les cérémonies. Parce que si on commence par parler de ça, ça va partir trop long.
C'est
parce que là, je vous le dis direct, ça fait une heure qu'on tourne.
Ouais,
mais du coup, il est temps de passer.
Non, mais tu vois, genre, juste pour finir par rapport à ça, du coup, par exemple, genre Adèle Con, bah en fait, est-ce que du coup, si on se place dans la tête, c'est de la comédie, mais en fait, quand on regarde les comédies
comédie
un peu césarisées,
hein,
genre exactement comme L'Innocent cette année, c'est des comédies mais qui sont extrêmement intelligentes, tu vois. Et en fait, je trouve ça un peu méprisant
vers la comédie.
Ouais,
simple,
ça, je trouve ça
vraiment méprisant.
Par exemple, Astérix Obélix, c'est de la grosse comédie, mais genre jamais ça ira au... enfin jamais ça a été au César, jamais ça ira au César. Alors
pour les décors et la production.
Alors que pourtant,
quoi.
Ça, alors et pourtant encore. C'est extraordinaire, tu vois.
Ouais.
Je trouve
que les Ricains assument beaucoup plus leur comédie en général.
Les Américains,
je suis très d'accord. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de cette dualité, mais de ce parallèle entre les comédies américaines et les comédies françaises. Mais les Américains, ils vont dans le stupide, mais encore.
Et ils assument.
Bien plus hardcore, et ils assument à fond.
Ouais, le problème,
toujours
c'est
plutôt Dumb and Dumber, Les Rois du Patin.
Super grave, enfin super bad.
Que des films complètement cons, mais qui sont du coup hilarants. Et c'est vrai qu'en France, on fait moins ça.
C'est mieux vu de cracher sur la comédie en France, en fait.
Est-ce que c'est
sur nos comédies récentes.
Des Françaises, enfin des Français, des Françaises qui. Putain, je parle en commun.
Françaises et Français.
Qui font qu'en France, on ne pourrait pas se permettre de faire des comédies américaines.
Bah en France, on pourrait
faire la comédie.
En
France, la comédie, elle est vue. D'ailleurs, ça a toujours été le cas au théâtre. En fait, elle est vue comme pas du tout comme un art noble, contrairement au drame. C'est pour ça qu'on fait beaucoup. J'ai l'impression qu'en France, on n'a pas envie d'être de faire encore plus ridicule que ce qui est pensé la comédie en France. Donc faire des comédies comme aux États-Unis. Donc on mélange beaucoup comédie et drame. Donc on fait beaucoup de comédies dramatiques, comme Intouchables par exemple. Et il y en a plein d'autres, mais je vous avoue, j'ai pas le nom. Du coup, je pense pas que en France, si on fait une comédie américaine, ça passe ou ça casse. Soit t'assumes à fond le bail.
Surtout, ils ont leur genre.
Soit
le film de Philippe Lachaud,
c'est
pas
grave.
Ouais, des trucs comme ça, c'est un peu. Ils tentent des trucs
américains. Mais ça reste très français aussi, tu vois.
Pour moi, un film français comédie qui ferait très comédie américaine serait Mandibule, par exemple, tu vois. Parce que
ça
assume son côté con.
Mais Dupieux, je pense que c'est pour ça que Dupieux a commencé son cinéma aux États-Unis. C'est qu'en fait, je pense qu'il y a que les Américains qui peuvent vraiment comprendre genre le truc complètement barré du truc, tu vois. Ou genre son premier film, c'est quand même l'histoire d'un pneu pendant 1h20. Enfin,
oui.
Genre, il n'y a que les Américains qui peuvent faire un truc pareil, tu vois.
Mais il l'a fait et c'est devenu une référence dans la comédie française. Donc
c'est ça.
Fallait le faire.
Mais de niche, quasiment. Enfin, c'est pas vraiment de niche. Dupieux, maintenant, plus on avance, plus les mainstream. Mais enfin, Rubber, il faut aller le trouver.
Ouais, c'est vraiment. Oui.
Mais
il l'a fait.
Moi, on parle beaucoup aussi. On a beaucoup parlé d'innovation dans la comédie française. Pour moi, le GOAT en ce moment, et qui va peut-être exploser encore plus et qui fera
Bruno
Dumont. De fou.
Dis Bruno Dumont.
C'est pas Bruno.
C'est qui Bruno?
Bruno Dumont. Il a fait Malout.
France est très bien.
Jonathan Cohen. Enfin, je trouve que.
Non!
C'est
non,
série.
Non, non. Je te coupe le micro.
C'est série.
Non!
Le Flambeau, c'est génial.
Le Flambeau est une reprise de La Flamme. Le Flambeau, c'était sympa, mais quand
Jonathan
tu réfléchis.
Jonathan Cohen fait du Jonathan Cohen pendant 2 heures. Genre dans
c'est
partout.
À parler en verlan H24,
moi j'ai pas aimé énorme.
Dans énorme, il est très drôle.
Je trouve que
j'aime pas aimer le film. Mais je trouve que
t'es en train de dire que Jonathan Cohen c'est le futur du comique. Enfin, genre, c'est le futur de la comédie.
Je pense qu'il incarne.
Alors
c'est
un Blanche Gardin, genre
de la comédie française à l'avenir. Enfin,
très
essoufflé,
hein, putain. Pardon.
Bah après, si toi t'aimes pas, mais franchement.
Je trouve ça drôle 3 minutes, quoi, mais pas sur un film d'une heure.
En fait, je pense que.
La Flamme, c'est genre 10 épisodes de 25 minutes. Si t'as aimé.
Une saison, ça me suffit. Genre,
je pense
le Flambeau,
que
c'est
ça. Une saison.
Je pense que maintenant, c'est impossible. Après, c'est vraiment mon avis, mais je pense que c'est impossible pour un acteur ou réalisateur de rester dans la comédie toute sa carrière
sans évoluer.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait on voit bien d'acteurs ou même l'inverse des acteurs qui font du drame, genre je pense à
Christian Clavier là.
Oui non mais je parle de la nouvelle génération.
Oui, et il tombe en ce moment, je veux dire
d'acteurs Pierre Ninet qui commence en comédie, qui passe maintenant dans des drames, Adesarcopoulos qui commence dans des drames, qui passe à la comédie, Noémie Merlant exactement pareil, Virginie Fira exactement pareil. Je pense que c'est impossible. Ils savent que maintenant la comédie peuvent proposer leur calamie pour entrer dans les Cévennes par exemple, qui peuvent proposer des choses originales et extrêmement bien écrites. En tout cas, je vois personne, je vois pas d'acteur, enfin de réalisateur, actrice ou acteur qui reste dans la comédie pure et dure mais intelligente. Parce
moi,
que
je suis pas d'accord.
En faire 7,
pas d'accord.
Mais voilà.
Attends,
parce
on va laisser ceux qui sont pas d'accord.
En vrai, non, c'est juste que ça me fait penser à un truc, c'est que on parlait de la difficulté de jouer de la comédie, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'exemples d'acteurs qui étaient uniquement connus pour leur comédie. Quand ils sont passés au drame, c'était souvent étonnant, mais ça marchait. Du feu de Dieu. Enfin, là, je pense à un truc pas français, mais du Jim Carrey qui a fait du plus sérieux dans Eternal Sunshine. Les gens étaient soufflés par sa.
Mais
par
même
sa
Man on the Moon, ou enfin.
Ouais, voilà.
Ouais, même The Truman Show.
Et une fois qu'on passe là-dessus, ça montre déjà que la difficulté de faire rire, c'est que. La plupart des gens qui sont dans le comique peuvent faire pleurer les gens aussi. L'inverse, par contre, est beaucoup plus complexe. Que des acteurs qui sont très drames, quand ils passent à la comédie, t'es là, mais mec, souris, genre, sois normal, tu sais.
Ouais, ouais.
Et
il y en a plein, exactement, genre Robin Williams qui, genre, en 3 ans, te sort Jumanji, Madame Doubtfire, le cercle n'est pas disparu. Enfin, genre, 3 ans d'écart, tu vois, et c'est. Enfin, tu regardes le cercle n'est pas disparu, tu te dis, genre, je pleure. Autant que je pleure sur Madame Fire, mais Madame Fire c'était vraiment des pleurs de rire, alors que le cercle n'est pas disparu, c'est genre des pleurs, tu vois.
Grosse crise de larmes à la fin, on connaît tous. Vraiment.
Du coup, moi, franchement, je suis pas trop d'accord avec ton analyse, parce que déjà dans les anciens acteurs, il y en a plein qui ont fait que ça. Enfin, Bakri, il a fait quasiment que ça. Nanty, Isabelle Nanty, elle a fait aussi quasiment que ça.
Moi, j'ai dit dans la nouvelle
génération. Et la nouvelle génération, tu prends le Palo Hacho, tu prends Jonathan Cohen, enfin, tu. Si tu prends la nouvelle génération, si tu prends l'ancienne génération.
Qui vient d'Internet aussi va être important.
Jonathan Cohen vient de Canal.
Palo Hacho vient d'Internet. Vraiment, genre d'acteurs qui sont vraiment, genre. Enfin, pas forcément acteurs de base, parce que c'est horrible pour. Tout le Palma Show, YouTube et tout, mais qui vraiment genre.
Cohen,
oui, non, mais qui vraiment débarre, qui vraiment démarre au cinéma et pas sur Internet, tu vois.
Ouais, je sais pas.
Et c'est sur ce avis, après, blanc que.
Dites-nous, dites-nous en commentaire, envoyez-nous un message sur le crible, ce que vous pensez de ce débat qui est très intéressant, je trouve.
Et qu'on peut continuer pour encore longtemps, ouais, mais malheureusement ou heureusement, on a un autre exercice à faire. C'est-à-dire un scénario comédie française qui va pencher vers le sérieux ou le nanar.
Qui est d'ailleurs très drôle parce que c'est un cliché, on n'a pas du tout genre parlé de comédie cliché en plus.
De comédie cliché qui... Et bah, c'est le moment. Quels sont les clichés des comédies françaises? Oui, clairement, les frites.
Quels sont les clichés des comédies?
Ouais, les comédies françaises. Parce qu'américaines, on a vu que c'était pas pareil, et anglaises encore moins. Donc,
comédies françaises, on joue quand même beaucoup sur les stéréotypes. Mais ouais. Ça, c'est un peu la facilité des comédies françaises.
L'acceptation de l'autre aussi. Genre, oh, tu es différent, oh là là, ça fait une heure de comédie, et à la fin, on vit tout ensemble. Ouais. On vit tous ensemble, parce qu'au final, on est français. On est français, mais on dit pas pour qui on vote, quoi.
C'est un peu Christian Clavier. Ça, c'est un peu les comédies Christian Clavier.
Qui sont discutables.
Moi, je pense qu'il y a souvent ce côté comique de situation, quand même, où il y a un moment malaisant, mais du coup, ça fait rire le spectateur. Repas de famille, je ne sais quoi, ce que tu veux. Il y a toujours ce truc-là du. Ah ouais, je sais pas, genre, mais dans le prénom, il y a. Enfin, voilà, quoi. Dans,
oui, t'as
dans,
des
dans
moments.
Dans tous les films qu'on a cités, quasiment.
Dans toutes les comédies, ça crie aussi. Il y a une scène où ça crie. D'engueulade. Non, sérieusement. Il y a. Ça crie.
Bakri.
Bah, du coup, en plus, j'y ai pensé, j'y même pas dans les films de Bakri. Mais si, dans les films de Bakri, ça crie aussi.
Oui, mais après, parce que Bakri, il est vraiment genre le petit. Tu sais,
oui, mais il
n'y
a pas que lui, il y en a plein d'autres.
Et ouais, mais il est insupportable, donc du coup, tout le monde crie sur lui, tu vois. Enfin.
En vrai, quand on dit comédie française, la première chose, la première chose auquel on pense, c'est soit le film de Chabat, Mission Cléopâtre. Soit qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc, à partir de là,
je pense que ça va être dur d'écrire une comédie française qui n'est pas nanardesque. Parce que
surtout qu'on l'a déjà fait l'année dernière.
Ouais, mais le truc, c'est que trouver un truc qui va pas dans les clichés, et en fait, faudrait vraiment écrire des dialogues et des comédies
de situation
très précis, je pense.
C'est la situation, genre Isabelle Nanty qui, avec sa lentille dans Mission Cléopâtre, ça me déglingue de rire, tu vois.
Ouais, elle est comme ça là.
Juste parce qu'ils sont en train de manger des lentilles. Enfin, c'est vraiment genre. C'est
du béaba mais bien écrit.
Ouais, la scène est dingue.
Est-ce qu'on peut dire que nous on écrit bien aussi et faire un.
Ouais, mais on peut tenter, c'est beau. Enfin, ça va être complexe, mais en vrai, c'est un défi.
Alors, soit on relève ce défi, soit on tourne vers la facilité scénaristique.
Et donc,
caca, et on
un camping, et là, il y a des Arabes et.
attends, c'est quoi le nom, mec, que je regarde de mon côté?
Qu'est-ce qu'on a fait au camping? Un crossover ambitieux. ce sera le nom du
qu'est-ce qu'on a fait au camping? Antonin, t'as noté?
Non, mais on peut faire un truc très chelou comme un Dupieux aussi, tu vois, genre un truc clairement. Qui n'a pas de sens.
Après, ouais.
Ah, on peut se lancer là-dedans.
Moi, j'aime beaucoup le comique de l'absurde aussi, tu vois. Enfin, c'est...
De nature
D'absurde.
C'était le comique de nature.
Didier est un film absurde, finalement.
Oui. C'est vrai. Un mec qui se transforme en chien. Non, un chien qui se transforme en homme.
Ouais.
Un homme.
Non, c'est un homme qui se transforme en chien.
Je pense qu'on peut partir.
Et après, il y a Bakri qui fait. Bah, Didier, bah, par ici.
Je pense qu'on peut partir vraiment d'un concept débile.
Partons d'un concept
et faire
débile.
Un truc et pas trop un truc pas trop cliché, tu vois.
Partons d'un concept,
concept débile. Débile. Le papier toilette n'existe pas. Non, je rigole.
c'est pas smart.
Une merde.
Bah, littéralement. Les gens s'essuient entre eux.
C'est génial.
Non, mais non.
Bonjour, ça va?
Non, c'est pas rrr. Dans rrr, c'est le shampoing, non?
C'est le shampoing.
C'est le shampoing.
Ouais, mais ça. Ouais, bon. On fait rrr de.
Avec plus de R. J'ai remarqué ça sur l'affiche. Hein, avec
promo. C'est comme le prochain Dali où genre il y a 6 A parce qu'il y a 6 personnages qui vont jouer Dali.
Ah, le prochain du
pieu. Lol. Ouais. Une situation absurde. En vrai, le manque de papier toilette, de fou. Hein.
Oh, la pénurie de papier toilette après le Covid.
Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est juste ça. Mais...
Ah, mais on dirait le film, c'est que je sais pas si c'est Danny Boone qui a fait, mais genre le film sur le confinement là. Ça...
Oui, qui n'a pas du tout marché.
Qui avait l'air nul.
Qui n'a pas du tout marché.
Qui d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. Peut-être Anthony, il l'avait en off parce que c'est un truc pâté, pas censé être au courant.
Je crois qu'il va couper parce que c'est vraiment une tacle.
C'est vraiment
gratuite.
Une tacle énorme. En plus, elle joue vraiment dans le prochain Danny Boone et elle est vraiment excellente dans le prochain Danny Boone.
Ah, mais c'est une bonne actrice, Charlotte.
Ah, bah oui.
Mais enfin, bref, très drôle. Je trouve.
Post-Covid, donc 2023 ou plus ?
Là, on part dans le nanardesque, quoi, là, vraiment.
Ah bah...
Okay, ouais. Un truc autour du Covid, c'est...
C'était pas le but de... Ouais, mais c'est
ouais. Vrai, là, on va droit vers un mur, les copains.
En plus, hein. Le film s'appelle, c'est genre... Le film, il s'appelle pas très Covid activité ou un truc genre...
Oh là là, oh là là.
Putain.
Ça peut être très, très drôle.
C'est vraiment genre... Tu rapportes un point que je voulais apporter, en plus, tu me terrorises. Hein.
Projet X, mais genre... Projet X post-camping. Enfin, post-camping, plutôt.
J'ai rien autour de projet.
Projet Covid.
Non, mais là, c'est horrible. Il y a trop de trucs nanardesques à faire, mais. Non, mais je sais pas. Moi.
Non, moi, j'avais bien l'idée de qu'est-ce qu'on a fait au camping, franchement. Je trouve ça vraiment très drôle.
Un mélange entre clavier et. Comment il s'appelle
Dubosc.
Dubosc.
Ah, mais du coup, non, mais ouais, genre, du coup, un camp de gitans, mais qui s'installe dans les bungalows du camping, quoi. Genre, c'est vraiment, on en est là.
C'est. Ah, au final, c'est un truc très humain, mais.
C'est. Oui.
Non, mais
un
camp de gitans qui s'installe dans un truc de camping, c'est trop. Cliché, ça.
En fait, c'est oui, ça. C'est à la fin, ils deviennent tous copains parce qu'ils font une partie de beach volley.
De pétanque, de pétanque.
Mais je pense que.
De pétanque.
Je pense qu'il y a un truc un peu humain. C'est pas de ça quand même, tu vois, mais c'est un peu. C'est pas facile.
Il y a notre Eugénie de comédie qui vient de revenir d'une sieste, ma foi,
titanesque,
vraiment.
Donc là, on est en train d'écrire une comédie.
Une comédie, si tu veux, le titre en avant-première.
C'est qu'est-ce qu'on a fait au camping. Mais du coup, ça.
Il va repartir dormir.
J'ai hâte d'écouter
ça. Il y a des trucs à enlever.
Le visage est douloureux.
Qu'est-ce qu'on a fait au camping?
Qu'est-ce qu'on a fait au camping? Bah.
Mais du coup, genre vraiment un truc post-Covid et tout.
Non, mais la
première mais oui, ça, oui, oui, fermeture du camping pendant genre 2 mois à cause du confinement.
Ah, oui.
Ils reviennent et les gitans sont là du coup.
Ah oui, en plus ça fait un lien aux squatteurs parce qu'il y a eu tout un truc sur les squatteurs.
Il y a eu tout un truc sur les squatteurs récemment. Non, mais c'est parfait.
C'est horrible.
Putain, on dirait un film genre. Un film qui est sorti l'année dernière, genre qui se passe en Corse et tout. Enfin bon, bref.
Qu'est-ce qu'on a fait au camping post-Covid? Non, ça rouvre.
On va. Enfin, on peut pas l'appeler comme ça.
Mais si, on va
avoir des problèmes de copyright.
Bon, on s'est déjà fait piquer l'émission, donc au bout d'un moment, c'est bon là.
On part sur une direction comme ça. Alors. Mais on peut essayer de faire un truc pas trop nanardesque quand même.
Oui, monsieur.
On part sur un camping qui a été déserté à cause du Covid et qui a été fermé de toute façon à cause des restrictions. Les propriétaires sont restés dans leur. Dans une
maison,
leur maison
à 2 km
pas
de
trop
là,
loin, quoi, mais ouais. Voilà, ils ont fermé le camping et tout. Ils reviennent, il y a.
Les
gens du voyage.
Romains.
Qui sont installés aux emplacements de camping.
Les Romains.
Les centurions. Qu'est-ce qu'on a fait à Astérix?
Les Romains, genre les Roms, quoi.
Le nom de Christian Clavier, en plus. Non, mais... Et du coup, ils reviennent et ils voient les gens du voyage et ils sont en mode ah, c'est embêtant. Et là, j'hésite. Est-ce qu'on les présente comme des connards qui agissent comme des connards? Ouh. Est-ce qu'on les présente comme des mecs? Oh, ils sont gentils, un peu comme Christian Clavier, ils sont juste un peu racistes.
C'est ça.
Est-ce qu'on les rend humains et en fait ils sont en mode bah peut-être qu'on les accueille mais c'est
ah ouais
chaud,
on veut les aider et tout.
Voilà, je sais pas.
Si on les rend connards, ça fait on tombe vraiment dans le classique, dans le nanar, dans la facilité, ce sera même pas drôle au final. Alors que si on fait du clavier ou on les rend gentils et puis on essaie de bidouiller un petit truc un peu en plot twist à la fin.
Ouais.
Ou alors, dit, ça peut le faire.
Ou alors on les rend méchants et on fait un truc ultra osé, genre un moment
ils essaient de les déloger,
ils font les gros racistes, et les gens du voyage ils leur balancent des cocktails Molotov, tout brûle, tu vois. Enfin j'en sais rien, tu vois. Ça part en couille.
Non, ça va lâcher des
la
grands morts.
Des boutons, genre.
Ça va lâcher des grands morts. Des grands morts dans les scénarios, dans les dialogues.
Je pense que ça part un peu trop. En vrai, ouais, l'apocalypse, moi, ça me va. Hein.
L'apocalypse.
Il y a besoin.
Non, mais tu sais, un peu comme les films
le
clichés.
COVID a, le Covid a tué vraiment tout le monde.
Wow. Ouais. Sauf les gens qui sont deux cons, là.
Ce qu'ils évitent en voyageant.
Non, ils étaient en Bretagne. Il y a, ou en Normandie, je sais plus, le camp des Gaulois, là, qui résiste à l'envahisseur.
Ah, l'Armorique.
Ouais, voilà.
Bah, Astérix.
Oui, dans Astérix, il y a le camp des Gaulois qui résiste à l'envahisseur. Et je sais pas s'ils sont en Bretagne ou en Normandie.
Bah en Armorique.
Ah. En Armorique, voilà, merci.
C'est des Gaulois, ils sont en Gaule.
Merci Nico pour cette.
Ouais,
on comprend ça aussi. Hein.
Bref, du coup. Ah ouais, mais en vrai.
Je vois un peu ça comme, tu sais.
De comédie post-apo.
Ouais.
Les, comme les trucs un peu genre les films genre Garde Voisins, tu vois, genre où ils se font des sales coups pour se déloger. Des conneries du genre.
Ouais,
Garde Voisins,
ils essayent,
c'est un bon
film,
ça.
Ils essayent de se déloger l'un l'autre, tu vois. Genre, oui, ils pètent le frein à main d'une des caravanes, elle dévoile la pente et tout, tu vois.
Non, mais j'aime bien cette idée. Et puis, on part sur un truc vraiment absurde où, genre, les mecs, puisque tout le monde est mort, bah, ils ont la place tout entière, mais. Il y a des mecs qui veulent rentrer dans leur camping et t'as les gens du village qui disent non, mais maintenant c'est installé, cassez pas les couilles, la terre entière est vide, allez-y, tu vois.
Ah, mais clairement, ouais.
Et le couple, ils sont en mode guérilla et tout, ils se prennent trop au sérieux, limite en mode. Comme le film de Noël à la con, là. Maman, j'ai raté l'avion, tu sais, où.
Oui,
à la con.
Attends,
film de Noël à la con.
Non, mais excuse-moi.
Pardon.
C'est un humour.
Non, mais là, en plus, j'ai vu le 2 et le 2 est moins ouf que le 1, et du coup, je dors.
Ouais, non, le 2 est pas. Non, c'est une suite pas très ouf.
Pas ouf.
Mais on peut faire ça vraiment.
Ça
les mecs qui veulent rentrer absolument dans ce camping alors qu'il y a la place partout sur la planète.
Ouais. En disant c'est le nôtre.
C'est le nôtre. C'est chez nous.
Et qu'il y a ce truc de propriété alors que, mec, il n'y a plus de propriété. Genre,
ouais, genre, vas-y. En fait, eux, ils sont restés dans leur délire de la planète existe encore, les humains existent encore, la société existe encore alors que, non, il n'y a plus rien. Quoi.
Ouais.
On retourne aux sources.
Puis ce truc bête et méchant de c'est le mien, tu vois.
Ouais, voilà. Bah,
il
c'est français. C'est
un objet
ça,
dans
hein.
le camping, genre une motivation, genre un truc à récupérer. Genre, je sais pas, ils ont poupi le chien du proprio, tu vois. Et ils veulent pas rendre poupi.
Ils veulent pas rendre poupie, ils veulent le bouffer.
Je sais pas.
Non, il peut y avoir des scènes marrantes où genre les mecs des gens du West se sont totalement appropriés tout l'environ et peut-être, je sais pas, il y a un poney qui était dans le truc. Non, c'est
le
poney des voyages, tu vois.
Poupie le poney.
Non, mais c'est marrant souvent de jouer sur les animaux domestiques. Genre, il y a souvent des petites vannes.
C'est très drôle la violence animale, hein. C'est très drôle.
Bah, je parlais pas de ça. Mais il y a souvent des petites scènes avec les animaux qui sont marrantes, tu vois.
Bah. Du coup, est-ce qu'on leur donne un nom à ces camps, le camp des gens du voyage et les camps des, je sais pas, des casse-couilles, mais
des vieux cons.
Des vieux cons, on les appelle comme ça.
C'est pas genre les vieux fourneaux. Je sais pas si t'avais vu un film, les vieux fourneaux.
C'est
vraiment genre, il y a vraiment genre une bande de papis. Ils sont appelés les vieux fourneaux.
Tu veux les appeler les vieux fourneaux ?
Je trouve ça extrêmement drôle.
Alors, pourquoi tout le monde me regarde comme ça là ?
Ce film existe déjà, on peut pas l'appeler comme ça. Les vieux fourneaux, c'est un film qui existe déjà.
Ouais, mais c'est une BD à la base en plus.
Oui, mais du coup, c'est un film.
Ouais, mais je trouve ça extrêmement drôle, genre, le nom. Ce nom un peu de genre.
Les vieux croutons, moi, ça me va.
Ouais, genre, c'est un peu genre périmé et tout.
Moi, j'aurais pris un truc plus réaliste, genre Camping Covid ou Covid Apocalypse ou Camping Apocalypse ou Qu'est-ce qu'on a fait au Covid ?
Non, qu'est-ce qu'on a fait au Covid ?
Qu'est-ce qu'on a fait au Covid, carrément ?
Qu'est-ce qu'on a... Non, on parle pas du titre du
Ah,
du
moi, je pensais qu'on parlait du titre.
Non,
ah, non, c'est qu'est-ce qu'on a fait au camping.
Moi,
ça
oui, je te parlais
des vieux
fourneaux,
ils appellent les vieux fourneaux des
groupes. Du nom des vieux croutons et du nom des gens du voyage.
Ah, bah, les vieux croutons, oui, on peut le.
Les vieux croutons.
Bah, on peut les appeler les vieux cons. Hein.
Oui, les vieux cons aussi.
Les vieux cons attachés au droit de
ouais,
propriété.
Mais genre, imagine, c'est un groupe WhatsApp. Genre, entre eux, tu sais, ils font un nom. Genre, en mode, ils vont pas s'appeler les vieux cons, tu vois. Mais genre, du coup, ils peuvent s'appeler les vieux croutons.
Ils s'appellent la Belle Époque. Ah, moi,
la
pas.
Belle Époque, ça c'est bien la Belle Époque.
La Belle Époque.
Les gens qui disent on est la Belle Époque, c'est vraiment des vieux cons.
Ouais. Allez, la Belle Époque. La Belle
Époque. Donc on a la Belle Époque,
la Belle Époque
d'un côté
et
l'autre.
Les gens du voyage.
Les gens du voyage.
Je crois que même pas se donner de nom est une signification de bah nous on s'en fout quand on veut juste rester
les
là
Joe.
Et.
Les
ouais, non mais les. Je sais pas, je pense justement on est. Enfin, en fait, je pense que c'est la communauté qui subit le plus d'incidents.
La communauté.
De manière assez. Assez enfin voilà c'est tout personne ne respecte ces gens-là et les gens du voyage de manière générale dans les films français sont encore moins bien représentés. Je sais plus si c'était Bienvenue chez nous mais c'est une histoire avec Christian Clavier
encore
avec Christian Clavier
c'est pas à bras ouverts
et ouais c'est ça c'est à bras ouverts en gros le mec
putain,
doit,
c'est pas une... oui,
le
si,
mec doit
vois,
accueillir
ouais.
des gens du voyage dans son jardin
oh là là.
Et ça le fait péter un câble
Ouais,
Et c'est hyper raciste et ça s'appuie.
Mais c'est la même chose de début
bah
de
Shrek.
Hein.
Mais du coup, je pense que tu fais un contre où justement tu.
Oui, tu fais un contre.
Mais sans faire trop cliché, parce que souvent il y a le truc du oh là là, regardez, ils ont des guitares.
Non, les gens du voyage.
Ils ont des casseroles. Mais ils font du bruit avec.
Mais voilà, tu les normalises. Tu probablement que.
Non, faut pas dire tu les normalises, ça fait encore plus.
Non, mais quand je dis normaliste, c'est genre faut arrêter de les montrer sous un aspect complètement délirant.
Alors qu'ils ne le sont clairement pas, quoi.
Voilà,
est-ce que l'un de nous s'y connaît un peu dans la vraie vie, dans les gens du voyage? Parce que là, dans tous les cas, on va faire une écriture spéciale.
Moi, je connais personnellement. Voilà, j'ai un pote qui cite cette commu. Et c'est un. Y a rien à dire.
Tu vas nous aider à éviter
l'amour.
Ce que je veux dire, c'est que tu vas nous aider à éviter les clichés. Quoi.
Exactement.
Oui, tout à fait.
On a besoin de ta sagesse.
Que, parce que de toute manière, si on là, on va l'écrire comme ça et voilà. Mais si c'est un livre qui devait vraiment être écrit, je pense qu'on aura la délicatesse de contacter des gens de ce milieu-là.
Exactement.
Pour le faire. Je précise parce que voilà.
Et du coup,
je suis un énorme beauf, genre.
Oui, mais tu savais pas en fait.
C'est genre incroyable.
Bah, mais tu t'es pas au courant.
Bah.
Révélation.
Non mais. En fait, le truc, c'est que genre, j'ai un humour de beauf, mais genre.
Un look de bobo, oui, on sait.
Non, j'ai un humour de beauf, mais genre, tu sais, pour se foutre de la gueule, tout ça. Et en fait, genre, je me rends compte que.
On va te couper de l'humour. Alors.
Merci pour cette.
Merci pour cette. Bah, voilà. Non, mais... sinon, qu'est-ce qui se passe dans ce. Parce que là, c'est... on a fait le pitch, on a posé nos personnages.
Ouais. Un comique de situation, c'est Pascal et Martine, ils sont les vieux, la belle époque.
La belle époque.
Vit sa meilleure vie en retraite, puisqu'ils sont en retraite.
Ils ont dépassé.
Sur les plages d'une charmante bourgade en Normandie. Un truc
j'allais dire Normandie, parfait.
Parfait. Et du coup, ces gens-là vivent leur vie. Il y a le Covid, du coup, ils se confient chez eux et tout. Un jour, ils sortent, il n'y a plus personne, ils sont ok, chelou.
Retournons au camping pour les vacances.
Et il retourne au camping et là bam.
C'était tellement agréable pour mes oreilles ça.
on voit qu'il y a des carnets qui sont installés et tout. Et du coup ils sont mais mince qu'est-ce qu'on a fait au camping. Et là il y a
générique de fin.
Il y a générique de
clap de fin et c'est bon.
Non mais voilà et juste ils essaient de rentrer chez eux, ils comprennent pas. La serrure a été chez et tout. Ils sont en mode, mais what the fuck et tout. Et là, on voit, je sais pas, à la fenêtre, un des mecs de la communauté des gens du voyage. Je sais pas, faudrait qu'on leur trouve un nom quand même. Je sais pas, nous on peut l'appeler Romuald par exemple.
Romuald, voilà, allez, Romuald. Les Romuald.
Donc Romuald, il les regarde, qu'est-ce que vous foutez là et tout. Le mec, on rentre chez nous et dit, mais il n'y a plus de chez nous, tout le monde est mort, dégagez, nous on s'est installé.
C'est premier arrivé,
tout,
premier servi quoi.
Voilà, exactement, il sonne, mais je sais pas que ça va pas se passer comme ça, on va appeler la police et tout. Alors que
il n'y a plus mort, de police.
Donc eux ils sont délus en fait, c'est genre ils sont en mode, on va s'appuyer sur les lois, vous allez être en procès et tout. Alors que.
Ils vivent pas avec leur époque quoi, justement.
Exactement, et du coup, après, quand ils vont voir qu'il n'y a plus aucun moyen. Ils vont voir,
ils prennent fourche et torche.
Romuald, il va se mettre bien, il va mettre, je sais pas, le pyjama de la belle époque ou un truc du genre, et du coup, il va te dire putain, c'est mon pyjama, enculé.
Et donc, comment ils vont. Ouais, il faut qu'on arrive à trouver un truc pour qu'ils puissent.
Ils vont rentrer en guérilla.
En guérilla.
Et tu trouves ce truc.
Le territoire.
En mode, je sais pas, ils vont essayer de. Par exemple, il y a un animal de compagnie, comme on l'a soulevé tout à l'heure, ils vont essayer de le dompter. Allez, viens, tu vois, genre.
C'est Poupi le poney.
Voilà,
une fameuse scène où le poney doit choisir, il est au milieu, tu sais. Non, viens avec nous, c'est nous ta vraie famille.
Ouais. Mais viens, moi j'ai des croquettes.
Non, mais ça peut être, ils essayent un peu tout le film de rentrer, et à un moment il y a un truc qui fait que c'est moi l'un contre l'autre, parce que sinon c'est sans fin, et qu'il les fait un peu se s'allier ou je ne sais quoi, genre je sais pas, il n'y a plus de bouffe.
Attends, s'allier, Pascaline et Romuald, ils vont s'allier?
J'en sais rien, mais par exemple, je sais pas, il y a.
C'est la fille de Pascaline. Pour moi, Romuald, c'est un jeune, il peut pas s'allier à Pascaline, tu vois. Marceline, je sais plus son nom. Pascal et Marceline Pascal et.
Pascal et Martine. Mais
Martine,
Marceline,
voilà.
Je...
Bon, la belle époque.
La belle époque.
Je me dis,
pourrait les faire s'allier.
Je me dis qu'écrire juste un film où c'est deux personnes qui sont antagonistes.
Oui, c'est
tout
pas.
Tout le film, c'est un peu.
C'est
à
nul.
La fin,
mais qu'est-ce qui pourrait les faire s'allier
à la fin, qu'est-ce qui les ferait s'allier? Mais je sais pas, par exemple. Il n'y a plus rien à bouffer, ils veulent faire.
Raclette,
ils veulent faire une teuf, j'en sais barbecue. Rien. Ils sont en mode putain, on n'a pas de légumes, on va faire comment? Parce que tous les légumes de tous les maraîchers ils sont pourris et tout, et ils sont en mode bah merde.
On n'a pas le temps d'en refaire d'autres.
Voilà, et du coup, je sais pas, Pascal il est chaud en jardinage, il va être en mode bah moi si vous voulez je peux vous aider et tout.
Bon, c'est un film bien financé par nos régions, ça.
Et moi aussi les salades de Normandie, voilà évidemment.
Alors la bonne salade.
On dit non mais je sais pas. J'avoue que j'ai pas une méga idée. Ouais, je suis pas un champion de l'écriture, tu vois. Là je t'avoue, je pioche un peu. Mais
j'avoue qu'avec ce pitch de base, je sais pas trop où on peut partir.
Ouais, c'est assez compliqué.
En fait, le problème c'est que je crois que niveau personnage, à partir du moment où on a supprimé la population mondiale, je sais pas trop ce qu'on peut faire intervenir.
Bah, justement.
Ou sinon,
on peut faire intervenir
film.
Des gens totalement au pif.
Mais on peut faire ce film du point de vue de Popil Poney.
Alors c'est EO là. C'est vraiment EO genre.
Oui, bon, à la fin, il y a pas Isabelle Huppert, mais bon, c'est pas grave.
Ça peut être drôle d'avoir certaines
Isabelle Huppert Jump Square.
Ça peut être drôle d'avoir certaines scènes où on est du point de vue du poney.
Du
ça,
ouais,
ça peut
franchement.
Faire des très bonnes scènes, tu vois,
ouais, genre de son point de vue, c'est neutre lui, il cherche juste à vivre et à manger, bon, oui, donc on peut voir du bon côté des deux côtés, même si on sait que la Belle Époque n'a pas forcément de bon côté.
Voilà.
Elle fait bien à manger par contre. les papiers et mamie font trop bien à manger. Non mais c'est vrai.
Ce qu'on retiendra de nos grands-parents.
Non mais c'est vraiment vrai pour
ta
le coup.
Ta bloquette de veau me manquera, mamie.
Merde. Ouais non mais enfin voilà, bref, on peut trouver des scènes marrantes à faire, on peut faire intervenir des gens un peu random de manière.
Des
pas,
aliens.
Putain, François Hollande, t'es encore en vie. Oui, je cherche des gens depuis 3 mois.
Oui, je cherche des j'en suis à 400 signatures pour la prochaine. Vous voulez signer s'il vous plaît.
Mais en vrai ouais, mais on peut faire un film où en fait on a l'impression que toute la population, elle a été complètement décimée, sauf ces deux camps. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure de l'aventure, on découvre des gens. Bah ouais, François Hollande. Puis après, on va découvrir Jean-Pierre Bacri.
En fait, tu vois, le poney, il peut partir au tout début du film. Et en fait, genre au bout de 5 km, on se rend compte qu'il y a toute la limite. Il y a encore quasiment tout le reste de la population. Eux, ils ont été mis en quarantaine, genre parce que dans ce village.
Ouais,
la région elle a été mise en quarantaine et ils n'ont plus accès au réseau. Ils
pensent vraiment qu'ils sont le dernier homme sur Terre. Putain, mais
le climax du film, c'est juste l'État qui essaye de reprendre toutes les terres et qui sont en mode dégager et tout. Ils sont non, c'est notre maison et tout.
Ils se battent contre l'armée.
Ouais, puis ça peut venir de là, l'alliance entre guillemets. Mais
ouais, ça peut faire. Ouais, ça peut faire
un truc pas mal.
Bah oui, parce qu'après, le coup, bah oui, l'alliance.
Le climax, ça fait un peu Rec. 3, mais.
Ça fait un peu la soupe au chou.
Ça fait aussi le dernier homme sur Terre qui est un mini sketch de Studio Bagel. Enfin, ça fait énormément de c'est Jérôme Niel qui. Il est le dernier homme de la Seine-Saint-Denis, tu vois. Et en fait,
ah, putain,
trois jours après, ils disent bah non, il y a juste votre communauté qui a été décimée, mais tout le reste du monde, c'est bon, hein, c'est vivant.
Ouais, j'allais spoiler un film qu'on va voir ensemble. Je ne dirai rien, j'ai failli spoiler.
Mais ouais, on peut. Enfin bref. Bon, je pense qu'on a une bonne base.
Une très bonne base.
On a des scènes sympas.
Maintenant, il faut les mettre dans l'ordre.
Ah bah écoute, on a notre pitch du début, on a notre petit instant guérilla avec les scènes
ouais.
Avec le poney. Après ça, on peut faire intervenir un perso, je sais pas.
Non, il y a le poney qui, comme tu dis, qui va de champ en champ et qui découvre. Oh! Une voiture.
Ça peut être
un
marrant.
McDo ouvert.
Un McDo.
Ça peut être trop marrant.
Ah, oh, Simon qui travaille là-dedans.
Oh non, ne ramenez
si
pas
tu
ça.
Apparais dans le film.
S'il vous plaît, ne me ramenez pas à ça. C'est à la fin dans le générique, Simon équipier McDo. non, mais je pense que ça peut être marrant de voir toutes ces scènes où t'as les deux camps qui sont un peu en mode oh putain, il n'y a plus personne. Et à côté, tu vois le poney qui est en train de visiter toute la France et tout. Et il voit des gens.
Ouais, faire une sorte de parallèle entre les deux. Franchement, c'est très bonne
idée. Et t'as un parallèle avec le village complètement désert et limite un peu la région et tout le reste où tout est en vie et tout. Il n'y a pas de problème.
Du coup, j'ai trop envie de suivre les aventures du poney un jour.
Bah ouais, c'est Puppy de poney quoi.
Il se fait recueillir par des gens et tout. Et il vit des aventures.
Grave, il vit sa meilleure vie, tu vois.
Et un jour, il revient.
Un jour il revient.
Pimpé de ouf, des gens en or.
Un jour il revient, il est pimpé, ouais. Genre en mode il a récupéré un truc et tu sais pas comment il a récupéré. Les mecs ils sont mais putain, comment t'as eu ça? Tout le monde est mort, what the fuck.
Je sais pas quoi,
un collier de fleurs de Hawaï, j'en sais rien.
Et là les deux groupes décident de sortir de leur zone complètement déserte.
Et là il y a eu des entendants d'un hélico, ils sont oh putain.
Non, l'hélico c'est trop simple. L'hélico c'est trop simple, l'hélico qui passe.
C'est vrai que c'est un peu simple.
Ça pourrait
être. Non mais un autre Normand. Une célébrité normande qui est à la recherche de gens depuis le début et qui est dans la même situation que tu vois.
Gérard Le Normand. Je suis désolé.
Je sais pas qui c'est.
Je sais pas qui
c'est. Chanteur. Un chanteur pour enfants.
C'est très bien, Gérard Le Normand. Qui va dire bah, je cherchais des gens.
T'as essayé de faire l'accent normand là.
Non, mais la voix de Gérard Le Normand, c'est exactement celle-là.
Bah, nickel.
Bah, du coup, bravo. Et il arrive, il essaie de chercher des gens.
Ils chantent des chansons aux gosses, au final.
Ouais, mais du coup, ils sortent pas de leur zone de confort, ce groupe-là.
De quoi, les gens du voyage?
Les gens du voyage, ah bah et non, la Belle Époque.
Sont, eux, ils sont au calme. Non, c'est la Belle Époque qui est en PLS.
Et en fait, la Belle Époque, elle veut pas suivre Poppy le Poney pour voir s'il n'y a pas autre chose derrière.
Bah, peut-être
qu'elle la colline.
J'ai l'impression d'être drogué, genre, vraiment.
Oui, mais toi, tu nous as lâché il y a 10 minutes.
peut-être qu'au moment où Poppy le Poney vient, à ce moment-là, oui, ils peuvent peut-être commencer à se dire « Ah merde, c'est un peu chelou ».
Est-ce qu'on ne devrait pas suivre Poppy le Poney, qui sent la rose?
De toute façon, on le suit quand il fait son itinéraire et qu'il reçoit quelque chose de gens et tout. Et voilà.
Oui, non, mais pas nous, mais c'est la Belle Époque qui suit Poppy le Poney pour. En dehors de leur guérilla, quoi.
Oui, ça peut être ça après, tu vois.
Mais après quoi?
Bah après, une fois qu'il est revenu, je veux dire.
Oui, mais du coup, peut-être qu'on va avancer là.
Ouais, ouais, mais du coup. mais du coup
Poppy le Poney arrive, la guérilla.
Mais du coup, ce serait pas l'État qui revient. Ce serait pas l'État qui.
Bonne question.
Du coup, la fin, ce serait pas l'État qui revient en essayant de choper.
Ah non, clairement pas. J'ai l'impression que la fin, ce serait plutôt la Belle Époque qui découvre, qui se sentent comme des cons, quoi.
Découvre la vie, genre.
À d'accord. 80 balais.
Ah d'accord. Et
je sais pas, hein, c'est une idée comme une autre après.
Et genre, l'État Internet. Décide de confiner à vie la Normandie. Et voilà.
Ouais.
Fin du film.
C'est la Bretagne en fait qui a repris le contrôle de l'État et qui a décidé de confiner la Normandie.
Waouh, ça part trop loin, Alice. Ça part trop loin.
Je propose d'essayer.
T'es bretonne?
Même pas.
T'es normande?
Encore moins.
Wesh, bah pourquoi tu.
Je suis du Cantal, moi.
Ah, coup dur.
Ta gueule. Nous, on a du bon fromage. Non, mais je sais pas, je propose des idées après.
Non, mais c'est bien, mais de toute façon, en vrai.
Wow.
Ouf.
Pas obligé de la prod à appeler, je crois. Hein, c'est...
Non, mais dans le sens où couper les on a une fin un peu ouverte à la con. Où c'est
une fin
très ouverte.
Ils se rendent compte qu'ils sont pas
une
tout seuls.
Une fin ouverte dans une comédie.
Ou une fin.
C'est très fermé, ouais, les fins.
Ouais, c'est très fermé. Bah écoute, moi je pense que le pitch du truc, ils se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls.
Ils s'ouvrent aux autres, ils combattent leur racisme et tout. Et à la fin, ils retrouvent la civilisation. Et on fait un cut, et au bout de deux semaines à regarder BFM TV, ils sont redevenus racistes de ouf. C'est tout. C'est ma chute. C'est que ils se sont fait niquer par le reste de la civilisation.
Tu es raciste et tu restes raciste.
Mais non, c'est pas ça. C'est que tu t'ouvres au monde en arrêtant de passer par des billets du genre BFM.
Ouais.
Parce que c'est des
news.
Vieux cons.
Ouais.
Ouais, c'est news, etc. Et au bout de deux semaines où ils reviennent dans la civilisation, bah, en fait, ils redeviennent des gros racistes, des gros cons.
Bah, du coup,
humainement, ils n'ont pas beaucoup évolué. Mais bon.
Donc, en fait, ce serait une réflexion sur notre société.
Ouais, mais je comprends,
c'est consommatrice.
C'est dommage qu'ils aient pas un minimum évolué, quand même.
Oui, je comprends.
Si, il y a Martine qui est quand même toujours un peu attachée à son petit Romuald, quoi, qui lui fait penser à son petit-fils disparu lors du Covid.
Qu'est-ce qu'il s'est grandi d'attendu, là.
Ah oui, quoi.
Non, mais. Idée, quoi.
Ça peut être bien d'ouvrir le film sur la Belle Époque devant BFM qui sont ah putain, nique la génération, blablabla.
Ah, c'est qui toutes ces féministes voilà. Là oh
féminazu peut...
Bon, voilà. Et le film se termine et ils sont devant un truc et on dit ah lui c'est vraiment putain.
Ils changent de chaîne et ils mettent le service
voilà,
public.
Ils mettent Arte. ils changent sur un reportage Arte. Et genre.
Non, c'est
pas. On touche pas Arte.
Non, il y a de la météo de Gulli.
T'as Martine qui fait à Pascal.
Avec Bonobo.
Ouais, et t'as Martine qui fait à Pascal. Mais Pascal, tu as changé de chaîne. Il fait. Oui. J'ai changé de chaîne.
J'ai payé ma redevance audiovisuelle. Je peux changer de chaîne.
Notre aventure nous a changé.
Il peut y avoir tout un truc où ils sont addicts à la télé. Et ça les rend ouf
de
plus avoir la télé quand ils sont empêlés.
Ça va être une histoire super drôle.
Ouais. En plus, genre, ils entendent la télé.
On dirait vraiment un script de Ostlund.
Et non, mais tu sais, du coup, ils vont le retrouver, le présentateur de leur émission préférée. Genre, tout le film, c'est eux qui cherchent Julien Lepers. Continuez à présenter, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, vous nous manquez.
C'est plus le même film, mais moi, en vrai, j'aimerais trop un truc comme ça.
Oh, le happening nul, genre Julien Lepers.
Ça va être une suite, tu vois. Et après, il y a genre la suite qui s'ouvre sur genre coupe et coupure de courant. Et t'as ce même couple là qui repart.
Ils vont chercher Pascal Pro.
C'est pas possible.
Ils vont chercher Pascal Pro.
En vrai, ensuite, ce serait pas mal. Mais du coup.
On est en train de faire une franchise autour de la
bah ouais. Okay. Vous voulez faire un troisième aussi
pour troisième. Ouais, et la fin du 2, faudrait une fin du 2. Et comme ça, on pourrait faire un troisième. Ça fait.
Non, mais on fera pas de deux, pas de trois, je pense. On va faire un.
Mais
flop.
Si, bah si, mais non.
Mais.
C'est quoi
mais
un flop
si, mais si, mais si, je sais pas. Oh, j'allais. Oh,
Babysitter. Babysitter 4, genre.
Babysitting.
Babysitting.
C'est Babysitting le film.
Putain, je sais pas, c'était tellement nul que.
Non, le 1 était bien, arrête.
Bien.
Alibi.com est mieux.
Incroyable. Ça va. Genre.
Bah, il était bien, quoi, c'est tout.
Il faisait le café qu'il avait annoncé, quoi, sans plus.
Alibi.com, c'était bien.
C'est pas, pas j'ai vu. Pas trouvé ça.
Bon, on revient au scénario.
Bah, après, là, je pense que notre scénario, il est quand même pas mal.
Il est pas. En fait, ça se termine vraiment sur le couple de vieux qui change de chaîne. En gros, ça leur a ouvert l'esprit de voir
un minimum
en disant ouais, BFM, c'est
assez. Ça fait un peu moraliste, hein.
Bah, c'est moraliste, mais.
Les comédies, c'est moraliste. Hein.
Ouais, c'est moraliste en plus sur BFM, moi, ça me parle.
C'est facile. C'est de la morale facile.
C'est moraliste sur BFM, waouh.
C'est de la morale facile. Oui. Je veux dire, tout le monde sait que BFM, c'est pas.
Après, ils ont remis Mediapart.
C'est pas profond sur le temps qui passe, hein. Ça va.
Après, à la fin, il y a un caméo de Edoui Plenel.
Qui ouais, qui dit bonjour, je suis Edoui Plenel.
Ok.
T'as l'air de.
Elle n'aime pas beaucoup Edoui Plenel, je crois.
Je vois qui c'est, mais. Pour moi, c'est le vieux qui rigole comme ça, là. Tu sais, le vieux sans dents qui rigole.
C'est pas
Ristas. Si, mais pour moi, ils ont la même tête. Du coup,
wow, là, je suis
tellement Antonin, tu vas couper cette partie.
Ouais, tu viens de comparer
les news par Ristas.
Non, mais...
Bref, dans tous les cas, ce qui serait bien, c'est de définir un peu notre panel d'acteurs.
Bah, Clavier, Christian Clavier.
Christian Clavier, il est genre partout.
Christian,
ouais, mais pour une fois, il joue les gens du voyage.
Non,
tous les gens du voyage.
Non, serait horrible.
Non, arrête.
Tu joues la mère.
Ah, putain, oui, on pourrait faire genre, c'est les vieux deux schlocs qui jouent genre Ariel Dombal et tout, qui jouent les gens du voyage.
Moi, un des gens. Moi, je vois bien des vraiment des gens qui ont un peu des origines, un minimum.
Ah, mais clairement,
j'aime
pas
ce genre de truc. Et je verrais bien un Pio Marmaille dans le rôle.
Pio Marmaille,
parce que j'adore ce mec.
Il est excellent dans ses rôles. Quoi?
Pio Marmaille, François Civil.
Non, mais on va pas parler d'encore parce que ça va encore. Bah
après,
Pio
Marmaille dans Encore, ça va, tu vois.
Bah, il fait un
il
truc
cringe,
basique.
Franchement,
quoi.
Il
fait un truc basique, mais ça
va. La fin avec la sauce tomate, j'ai trouvé ça cringe, vraiment.
Non, mais ce film a beaucoup de défauts et je trouve que ces acteurs pâtissent de ce film.
Ce film Masterclass, on en a parlé lors du dernier podcast et c'était. On a parlé des très bons côtés de ce film. Ne parlons pas des mauvais côtés.
Voilà,
gardons un bon souvenir sur ce podcast.
Un aspect positif.
Exactement.
Mais Pio Marmaille, moi je suis à fond. Hein.
Ouais,
j'aime trop cet acteur.
Voilà, moi je suis grave chaud. Et du coup, ouais, Christian Clavier, moi ça me va. C'est vrai que
mais
c'est
et
peu,
sa femme, elle est jouée.
Ça pourrait très bien être Danny Boone ou un mec un peu. Ça peut
dans
très
les tuches.
Bien être.
Attendez,
ça pourrait très bien être Gérard Junior.
Dans les tuches, sa fille. Isabelle
Nanty.
Isabelle Nanty en femme de Clavier.
Ça collerait.
Après, si on voudrait plus.
En changeant, j'aimerais bien un Poulvord. Il peut faire le vieux con aussi, je pense.
Poulvord et un vieux con, je pense.
Oui, c'est vrai que ça pourrait être grave le faire.
Et ça changerait de Clavier. Voilà.
Ouais. Ça, et Chantal Lobby.
Si on veut gagner... Ouais. Si on va avoir du
coup,
box-office, on remet le couple Lobby Clavier. Hein. Tu vois, c'est.
Lobby. Ouais, c'est vrai.
Enfin, bah, là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a fait au camping.
Bah ouais, mais
c'est ça le titre, qu'est-ce qu'on a fait au camping. Donc, parfait.
Putain, vraiment, genre, j'ai hâte de
Est-ce qu'on pourrait pas humaniser un peu Clavier? Moi, je trouve ça beau.
Pourquoi on l'a mis au Clavier? J'étais pas là, moi.
Ah bah, si, en acteur principal.
Mais je croyais que c'était Poulvord qu'on avait mis en acteur principal.
C'était une proposition.
En vrai, je trouve que
les deux iraient bien.
Je trouve que Poulvord Lobby, ça marcherait bien.
Ouais, ouais, j'avoue qu'un petit combo.
Ok, mais du coup, on l'appelle pas. Mais qu'est-ce qu'on a fait au camping?
Bah si.
Bah, mais du
Clavier,
coup,
il fera.
Qu'est-ce qu'on a fait? C'est en Clavier. Ah bah, il est dans la prod.
Mais sinon, Franck Dubos, Chantal Lobby.
C'est celui qui produit le truc, tu vois.
Oui, voilà, Clavier est dans la chaîne. Et il fait un caméo. Je sais pas, il joue Hollande, j'en sais rien.
Ah ouais, il joue Hollande.
Ah ouais, non, mais il joue Hollande.
Il joue Hollande post-Covid, genre.
Ouais, il a un peu rapetissé et puis il a un nez à la jacouille. Enfin bref. C'est...
Moi j'aurais pu jouer Sarko, mais ouais.
T'aurais voulu jouer Sarko?
Non, lui.
Ah,
ah ouais? Je sais pas.
Bah, Clavier, je vois plus Sarko que Hollande, perso.
C'est vrai.
Niveau
plus
genre physique ou idée politique?
Et boum.
C'est vrai.
Et qui joue Pupil Poney?
Bah, un poney.
Bah, un poney.
Question Clavier.
Ouais.
Ah ouais. La voix, non, la voix que c'est un moment, t'as genre le poney qui fait genre ils sont fous ces humains, c'est la voix de Christian Clavier, genre
mais
un truc
ouais,
comme ça
clairement.
Qui parodie, je sais pas, faut apprendre une réplique de lui qui fait genre ok,
mais ce film est un rêve célèbre, genre,
mais c'est parfait,
non, mais c'est
parfait,
je pense qu'on a notre truc,
oh, on a clairement notre truc.
Y a pas que Pio Marmaille du côté, il faut d'autres gens.
Bah, oui. Moi, c'est ce que je disais, c'est que j'aimerais bien privilégier beaucoup d'acteurs de ce.
En fait, il faut au moins.
Communauté.
Voilà, il faut au moins un acteur connu.
J'aime pas l'idée de prendre plein d'acteurs et je trouve ça bien d'avoir Pio Marmaille quand même qui.
Il faut au moins un acteur connu qui incarne du coup cette communauté-là et ensuite des vrais gens, quoi.
Oui.
Enfin, des vrais gens. Des gens de cette communauté.
Bah, des gens issus de cette communauté.
Pas.
Parce que franchement, le nombre de gens qui sont. De films qui sont faits sur ces gens-là, sans ces gens-là.
Mais c'est qu'en plus, genre, le truc, c'est que genre, Pio Marmaille, il pourrait. Enfin, genre, c'est vraiment genre l'acteur parfait pour faire un rôle pareil.
Mais oui.
Enfin, non, mais genre, il a le physique. Enfin, il a genre, tu sais, la physique, la prestance, la carrière. Enfin, il a tout en fait pour
mais
faire
il est excellent,
vraiment.
Ce
genre...
mec.
Ouais, nah.
Ah, non, Pio, ouais. Pio Marmaille, je pense qu'il. Enfin,
Pio. Ce coup de... Le bon Pio.
Pio.
Ok.
Pio.
Bon, bah, on est. Pio. On est good, les amis.
Pardon. Moi, j'en ai good, hein. Et terminé sur qu'est-ce qu'on a fait au camping, c'est parfait.
Voilà. Oui.
C'est excellent.
On a résumé tout ce qu'on n'aimait pas dans les comédies françaises en un titre. C'est beau.
C'est très beau.
C'est vrai. Attends. Que le titre paraît très nardesque, finalement.
Et après, on peut faire un crossover, genre en mode. Les tuches, qu'est-ce qu'ils ont fait au camping, genre.
Bon, oui, bon, allez, alors, encore plus
loin. Ouais, allez, je crois qu'il est temps de couper.
On s'arrête là.
N'hésitez
pas évidemment à aller sur Spotify et
sur un énorme blanc là de ma
et à mettre au pire. On...
Vas-y, on refait.
Et de mettre, voilà, donc merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les
mais
plateformes.
C'est Lise là, c'est Lise qui
écoute, je suis toujours stressée après 2 heures de
non mais
on va jamais réussir à terminer cet épisode. On a géré le temps, Antonin, on a géré le temps.
Non mais c'est
et bah voilà.
Je te laisse.
Non mais oui, du coup, merci de nous avoir suivis dans cette aventure
rocambolesque.
Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous écouter sur toutes les plateformes sur lesquelles ce podcast sera diffusé et à mettre 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. À donner votre avis aussi, parce que nous, on débat entre nous, mais c'est toujours très intéressant de connaître votre point de vue sur les sujets qu'on aborde. Un petit mot de la fin, les gars. Parce que oui, il n'y a que des gars ici.
Je sais pas, moi personnellement, non.
D'accord. Simon.
Voilà.
Non,
oui.
Non,
c'était cool.
D'accord.
Quoi.
Hector, un petit mot. Vu que c'est la première fois que tu viens d'ailleurs, est-ce que tu as aimé cette session?
C'était très sympathique.
Très sympathique.
Merci de m'avoir accueilli.
Merci à toi d'être venu.
Pas de soucis. Plus jamais.
on verra sur un dernier mot. Thème la prochaine fois.
Je dirais un dernier mot, je dirais ça fait comme une pizza 4 chaussures parce que j'ai pas eu le temps de placer quoi que ce soit sur la tombe infernale et je voulais faire un petit mention honorable.
Voilà. C'est vrai.
Mention honorable, ouais, bravo.
Et toi, Lise, t'as un truc à dire?
Juste merci et c'est très compliqué de lead un podcast. Antonin, ça demande énormément d'efforts et de concentration. Je sais pas comment tu tiens. Donc,
tu t'en es brillamment sorti.
Merci, même si comparé à toi par rapport à la dernière session, j'ai l'impression d'avoir fait un peu
la dernière
saison
qui sera la prochaine pour
qui
vous.
Qui sera la prochaine pour vous. Vous savez, ce multiverse un peu bizarre là. Bon, on termine sur ça. Bisous, bonne nuit, bonne journée.
Ciao,
au revoir,
ciao,
à bientôt.
Merci.
Baiser.